Bon midi, auditeurs de Boulevard et auditrices de Boulevard 102.1. Comme à l'habitude, de midi à 14h, c'est votre émission de l'actualité. On en jase avec Jeff Fortin, Pascal CV. On va parler énormément d'actualité locale aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se trament en politique municipale. Il y a aussi l'enquête publique du coroner Luc Malouin sur la mort tragique de Maïline Lugaz. Ça s'est terminé hier. Donc, Victoria Barry va venir nous voir à cet effet pour nous raconter justement le témoignage des deux parents, comment ça se passait dans la salle, etc. Donc ça va être vers la fin de l'émission. Alors, on fait beaucoup de local aujourd'hui. On va avoir notre chroniqueuse politique locale également, Alicia Despins. Puis évidemment, bien, hein, vous le savez, dans le caucus, on va parler de cette rentrée parlementaire et de ce premier discours de Christine Fréchette. Puis du fait qu'elle amène déjà le Parti libéral du Québec dans le coin. Et les met devant, justement, la protection de la langue française. J'ai des extraits là-dessus de Charles Milliard ce matin dans l'émission Marceau le matin. L'entrevue est disponible sur blvd.fm. D'ailleurs, blvd.fm, c'est notre web radio. C'est une façon de nous écouter et d'aller réécouter, justement, les meilleurs moments. BLVD 102.1, c'est notre application gratuite sur App Store et Google Play Store. Téléchargez-les. Vous pouvez nous écouter partout en tout temps. Et également avec les haut-parleurs intelligents. Mais vous dites, écoutez BLVD 102.1 et on apparaît dans vos oreilles. 418-971-102.1. Vous avez été plusieurs hier à souhaiter la bienvenue à Antonine Iaccarini après justement son congé de maladie. Donc, elle sera là avec nous et vous pouvez interagir avec nous. On adore justement quand vous nous donnez votre opinion. Pascal CV, comment vas-tu?
Ça va très bien. J'espère que toi aussi.
Ça va vraiment bien. Non, très, très, très belle journée. Malgré que là, c'est un peu nuageux. Je ferai de la météo tout à l'heure.
Oui.
Mais non, j'ai bien... j'apprécie bien ma journée. J'ai les jambes très... raide, j'ai couru un demi-marathon.
C'est le surlendemain, hein?
Ouais, puis je suis allé à l'entraînement hier, puis le lundi, c'est un bon training.
C'est que les tactiques sont prises, là.
Ouais, écoute, j'ai squatté, j'ai fait des fentes, j'ai fait des burpees. Donc, non, à matin, j'ai fait « Oh my God! » Je le ressens très bien, mais bon, ça va bien aller. Je veux juste commencer l'émission. Je veux saluer... Puis les parents de Catherine, parce que malheureusement, ça fait déjà 2 ans aujourd'hui que Catherine est décédée, mon amie Catherine Guillet, qui est décédée du cancer du côlon à l'âge de 36 ans. Donc, ça fait déjà 2 ans qu'elle a rendu
l'âme. Hein?
Vraiment.
On dirait que c'est hier.
Ben c'est ça, exactement. Puis je m'en ai rendu compte tantôt, vers 9h30 dans l'émission, je suis en train de parler avec Marceau. J'ai fait « Hein, crime, ça fait 2 ans déjà que ma chum Cat est disparue. » Puis j'en profite pour vous inviter à l'événement bénéfice le prochain. Événement pour le fonds philanthropique Catherine Guillet qui se passe le 17 juin prochain. C'est à la scène, ici à Le Bourgneuf, au 815 boulevard Le Bourgneuf. C'est Big Muff Acoustique, un spectacle exceptionnel que j'ai eu la chance de voir 2 fois. Donc, pour la modique somme de 35$, vous pouvez voir le spectacle. Vous êtes invité au 5 à 7 également d'ouverture avant sur la passerelle Le Bourgneuf. Et votre contribution, autrement dit, 35$, c'est fort simple. Vous allez permettre à une femme ou une adolescente défavorisée de la basse-ville de Québec qui n'a pas de médecin de famille d'avoir des soins de santé gratuits pour 1 an. C'est des soins de santé qui vont être effectués par la clinique Ovel, propriétaire Caroline Drolette, l'une de mes amies d'enfance. Alors, vous allez peut-être bien sauver la vie d'une personne, justement, parce que dans les traitements, on fait, entre autres, le dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc, tout ça gratuitement pour les femmes et les adolescentes défavorisées. Fait que je me plais toujours à dire, on n'a pas besoin, puis je vais reprendre les termes de Christian Dubé, l'ex-ministre de la Santé, pas besoin du gros mammouth de Santé Québec pour prendre soin des gens. On le fait très simplement de cette façon-là. Alors, c'est sur lascène.com, les billets sont disponibles. Je veux plus d'informations également. Là, vous pouvez m'écrire là, personnellement là, via Messenger ou Instagram. Ça va me faire un énorme plaisir. Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité avant de parler avec Antonine Iaccarini?
C'est une énorme journée, Jeff.
Ah oui, hein, c'est
vraiment une grosse journée de nouvelles. D'abord, c'est une grosse journée pour la province. Tout premier projet de loi déposé sous la première ministre Christine Fréchette. C'est un projet de loi qui va viser à renouveler dès maintenant la disposition de dérogation à la Charte canadienne des droits et libertés. Ça, c'est pour blinder la loi 96 sur le français contre des poursuites pendant 5 ans. C'est la presse qui a pris ça. Et là, le ministre Jean-François Roberge va être porté de déposer le projet de loi au lendemain du retour des députés à l'Assemblée nationale. nationale. La loi 96 sur le français, ça a été adopté en mai 2022 et la disposition de dérogation, c'est valide, comme je vous disais, pour 5 ans. Donc, la décision de la renouveler ou pas, c'était initialement prévu en mai 2027. Donc, vraisemblablement, on veut devancer les choses pour passer un message. L'ancienne juge à la Cour suprême du Canada, Louise Arbour, devient la prochaine gouverneure générale du Canada. Elle va succéder donc à Mary Simon, au prestigieux poste qui est représentant du roi Charles au Canada. Et en plus d'avoir œuvré comme juge, Mme Arbour a agi comme haute commissionnaire des Nations unies aux droits de la personne, puis elle a été procureure en chef au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Tout un CV, je dois vous le dire.
Mais hein.
Sur une nouvelle un peu plus particulière, parce qu'on est encore dans l'obstination au niveau de la Ville de Québec puis du projet de tramway. On a su dans les dernières minutes que le consortium Tram Alliance va réaliser le tunnel du tramway du Québec qui doit relier la basse ville à la haute ville. Et ça a été confirmé par CDPQ Infra. Vous me dites, ben, pourquoi, Pascal, tu parles de ça? C'est parce que ce matin, Stéphane Lachance, de Respect citoyen, a dit qu'il ne souhaitait pas aller de l'avant avec le projet parce qu'il n'y a aucun consortium qui souhaitait réaliser cet aspect-là du projet. Donc, sur les ondes de Radio-Canada, on est allé avec une reconfirmation qu'on allait le faire. Super tragique, mais je pense que tout le monde est au courant qu'hier, il y a deux piétons d'âge mineur qui ont été blessés dans un accident qui a impliqué deux véhicules. Autour de 15h45, c'était à l'intersection du boulevard des Chutes et de la rue Francheville à Beauport. Et là, il y a un homme qui a été arrêté. Un des deux jeunes était inconscient. Il présentait des blessures importantes à l'arrivée des services d'urgence. Son état était grave, mais stabilisé. Les deux ont été amenés à l'hôpital, par exemple. Il y a eu enquête et tout ça, et ça a mené à l'arrestation d'un homme de 67 ans pour conduite dangereuse causant des lésions. Il est actuellement détenu, devrait comparaître aujourd'hui au Palais de justice de Québec.
Merci beaucoup, Pascal. On passe au caucus.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Antonin Iaccarini, comment vas-tu?
Ça va très bien. Ouais. J'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui.
Ben
j'espère
oui.
que je vais pas m'étouffer en vous parlant.
Bon.
J'ai une tisane devant moi. J'espère
excellent.
Que ça va m'aider.
Fait
voilà.
que quand t'as à tousser, tu tournes, puis moi, je me mets à parler. C'est aussi
ouais,
simple
ben,
que ça.
En étant à distance, tu vois, Jeff, je peux juste peser sur mute en m'étouffant, puis là,
ben oui.
pendant que tu parles. Fait que ça devrait fonctionner, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de virus qui se promènent ces temps-ci, mais
ah,
j'ai
vraiment?
Un rhume. Et je tousse depuis, ça fait 10 jours que j'ai fini d'être malade, mais je tousse encore. Alors,
ah, écoute, ma blonde était sur le derrière depuis 5 jours. Elle vient de revenir au travail. Et notre collègue le matin, Yannick Marceau, animateur de Marceau le matin, a ça, il y a de quoi te pogner dans la gorge depuis le début de l'hiver qui passe
ça
pas.
Ça traîne, là, c'est en
vraiment.
Termes de mois.
Ah non, vraiment,
qui
passe
infini.
Pas du tout. Exactement. Donc, je te comprends très, très, très bien. Moi, je touche du bois présentement parce qu'il m'est rien arrivé encore au niveau de la voix. Anto, avant de parler de Christine Fréchette et de son discours inaugural, il y a du nouveau dans l'équipe de Paul Saint-Pierre Plamondon, un nouveau chef aux communications. Donc, on avait eu un nouveau chef de cabinet, si je ne me trompe pas, avant les fêtes. Et là, on a un nouveau chef aux communications, signe qu'on s'en va en campagne électorale puis qu'on veut mettre des gens peut-être plus d'expérience pour tenter d'amener PSPP au pouvoir?
Hey, t'es tellement à la bonne place, Jeff, parce qu'il faut le dire, avant d'entrer en onde, Jeff essaie de me convaincre de lui dire c'était qui le nouveau directeur
ben là,
des communications.
Tu m'as dit que je le connaissais?
Oui, vous le connaissez.
Qui est cet homme-là?
Bon, et c'est quelqu'un d'expérience, c'est Claude Villeneuve, donc
ah!
ancien chef de l'opposition à l'hôtel de ville.
Ah, ben là, qui... Marceau va être content parce qu'il avait dit que Claude Villeneuve, il va retourner au PQ. Ben, c'est fait!
Bon. Mais c'est ça, mais on pensait qu'il allait retourner comme candidat. On le voyait comme candidat notamment dans la circonscription de Jean Lesage chez lui. Mais finalement, c'est en coulisses que Claude Villeneuve va travailler comme directeur des communications à l'aile parlementaire du PQ. Et c'est un poste qui est névralgique. Je le dis parce que je l'ai déjà occupé, ce poste-là. Fait que tu comprends, c'est bien important
ben
le poste de directeur des communications. C'est vraiment quelqu'un d'expérience, Claude Villeneuve. Là. C'est un bon coup pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Non seulement il y a de l'expérience au municipal, politique active au niveau local, tellement important. C'est un gars de Québec aussi, le PQ veut faire des percées supplémentaires à Québec. Il a été chroniqueur politique, c'est quelqu'un qui connaît très, très bien les médias, comment ça réagit. Il a été rédacteur de discours de Mme Marois, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc. Donc, très bon coup pour le PQ. On parle souvent des candidats, mais
c'est ça. Ben, écoute, il a gagné des élections avec Pauline Marois. Oui. Claude Villeneuve, t'es pour avoir couvert l'hôtel de ville pendant 2 ans, il n'y a pas personne qui l'aime pas.
Non, tout le monde aime Claude. Globalement apprécié.
Il y a même de la misère à essayer d'être détestable. T'sais, on voyait que c'était pas sa force dans la joute politique au municipal quand ça venait un peu démagogue, quand ça venait un petit peu dans les attaques personnelles. Il essayait de jouer ça, mais il y avait de la misère. Ça semblait pas naturel. Peut-être que c'est bon, justement, qu'il soit plus en arrière que dans cette jungle-là politique.
Ben, écoute, moi, je l'aurais vu aussi comme candidat. Je pense que c'est quelqu'un qui est en politique pour les bonnes raisons. Cela dit, c'est un des postes stratégiques en campagne électorale. Donc, on voit que le PQ est vraiment en train de se préparer. Puis, veut pas, là, on va parler de la CAQ de Christine Fréchette. C'est la journée de Christine Fréchette aujourd'hui, évidemment. Ça va être un enjeu, le recrutement pour la CAQ, parce que là, on parle des candidatures, mais même dans les coulisses pour la CAQ, il y a eu énormément de départs dans les cabinets dans les derniers mois.
Le staff est sans expérience présentement, Antonine.
C'est jeune dans les cabinets.
Ah, vraiment.
Puis c'est le fun d'avoir du monde jeune aussi, hein, ça amène une autre perspective, mais le manque d'expérience, des fois aussi, évidemment, ça a des conséquences. Est-ce que Christine Fréchette va réussir à s'entourer, là, puis pas juste elle, là, dans chacun des cabinets, pour que les ministres ténors là, soient bien entourés. Donc, voilà, pour le PQ, en tout cas, ça continue de bien aller, puis ça continue aussi d'annoncer des candidatures. Donc, pour l'instant, ça va bien au PQ. Là.
Vraiment, vraiment, le PQ sur une bonne lancée, très haut dans le vote francophone, puis tu sais, comme je te disais hier, moi, je sens qu'on s'est stabilisé là, sur le 30% au général, donc ça me surprend de voir une chute du PQ. Hey, tu parles de Christine Fréchette. Andy Saint-André a fait un vox pop aujourd'hui à l'entrée du métro de Montréal. Si je ne me trompe pas, c'est à la station Longueuil. Sur qui est Christine Fréchette? Je vous laisse l'entendre.
Je me demandais si vous saviez qui était le ou la première ministre du Québec.
Non.
Vous ne le savez pas à l'heure actuelle? Si je vous dis Christine Fréchette, ça vous dit quelque chose? Vous saviez c'est qui?
Non.
Je vous parle de Christine Fréchette, savez-vous c'est qui?
Je sais pas c'est qui, non.
Si je vous dis Christine Fréchette, ça vous dit quelque chose?
Ben oui, c'est le premier ministre du Québec.
Christine Fréchette, savez-vous c'est qui?
Non.
Si je vous dis que c'est la première ministre du Québec.
OK.
OK. 4 mauvaises réponses sur 5. Et là, je vous le dis, moi, j'ai vu l'image. Putain, c'est 4 personnes, des professionnels. Là. Ils s'en vont travailler, tu le vois, par leur habillement. De entre 35 à 40 ans qui sont pas capables de dire qui est la nouvelle première ministre du Québec. Pour toi, Antonine, ça représente quoi? Est-ce que ça représente un déficit de notoriété chez Christine Fréchette ou le fait que le monde se sont désintéressés de la politique ou peut-être un peu des deux?
Ouais, toutes ces réponses. Ben, d'abord, tu fais bien de préciser que c'était des gens dans la trentaine parce que je trouvais que les voix étaient jeunes. J'allais dire, j'allais un peu mettre ça sur le dos de la jeunesse dans le sens que évidemment, on sait que les générations plus jeunes écoutent moins les médias traditionnels.
Ouais, peut-être, admettons, une qui était fin vingtaine, là, mais tu sais, je veux dire, tu vois que c'est tous des gens qui étaient habillés très propres qui s'en allaient au travail. Là.
Ce que ça veut dire aussi, là, outre le fait que les gens, effectivement, ne suivent pas toujours la politique aussi attentivement que nous autres, ben c'est à quel point, même s'il y a eu une grosse opération de communication dans les dernières semaines, ça prend pas tant d'espace que ça dans la tête des gens. Mm-hmm. Puis on en jasait hier parce qu'on parlait de hockey. Je disais, les gens sont pas mal plus intéressés à parler de hockey ces jours-ci que de politique.
Je pense qu'on aurait été 5-5 sur qui est l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal.
Ah, tu penses? Ah, zut, on aurait dû le faire, honnêtement. Ça aurait été intéressant de faire la comparaison.
On va envoyer Mathias sur le terrain à Québec.
On va poser les deux questions.
Poser les deux questions. Qui est Christine Fréchette? Qui est Martin Saint-Louis?
J'adore.
On va comparer.
L'entraîneur, on verra. C'est sûr que c'est un joueur de hockey. Probablement que ça scorerait encore plus fort. Mais oui, Christine Fréchette n'est pas encore hyper connue. Ça démontre qu'il y a encore une opportunité aussi pour elle. Parce que être méconnue en politique, ça aurait pu lui nuire pour se faire élire à la tête de la CAQ, mais ça n'a pas été le cas. Et au contraire, elle arrive un peu avec une ardoise qui est propre. T'sais. Dans la tête des gens, ils n'ont pas une opinion qui est arrêtée. Puis c'était ça aussi la différence entre elle et Bernard Drinville pendant la course à la chefferie. Je pense que s'il avait posé la question qui est Bernard Drinville, le taux de réponse aurait probablement été plus élevé. Mais les gens avaient une opinion très arrêtée sur M. Drinville. Donc, tout ce qu'a fait ces temps-ci, là, sa tournée d'entrevue après sa victoire, sa mission à Washington, sa rencontre avec Soraya Martinez à Montréal, sa rencontre avec Bruno Marchand à Québec, chaque fois qu'elle fait un bon coup comme ça, bien, il y a de plus en plus de gens qui la voient dans un contexte qui est positif pour elle. Aujourd'hui, c'est une autre étape parce que c'est le discours d'ouverture. Donc, c'est comme ce qui va inaugurer la courte session parlementaire. On parle de 5 semaines, c'est 17 jours à l'Assemblée nationale seulement de travaux parlementaires. Et là, elle doit marquer des points très rapidement. Tu sais, dans le fond, Christine Fréchette, là, elle est en train de surfer une petite mini-vague, là. C'est une petite vaguelette là, pour l'instant, puis elle le fait très bien. Mais pour changer la donne dans les sondages et dans les intentions de vote des Québécois, ça y prend plus qu'une petite vaguelette. Là. Ça prend une bonne grosse vague et voire même un tsunami. Donc, il faut marquer le coup. Je trouve que son annonce d'aujourd'hui de nous dire que le premier projet de loi qui sera déposé, c'est ce dont parlait Pascal il y a un instant, la clause dérogatoire pour 5 ans pour protéger le projet de loi qui a réformé la Charte de la langue française, le projet de loi 96. C'est un excellent coup pour Christine Fréchette, parce qu'elle nous a parlé beaucoup d'économie depuis son arrivée. C'est plus ça, son branding. Mais la CAQ, c'est aussi le nationalisme. Et elle veut, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut se différencier de Charles Villard.
Ben
parce
oui.
Que le PQ là, va marteler CAQ égale PLQ, Fréchette égale Milliard.
Exactement.
Et c'est pas ça que tu veux comme message dans les régions, j'ai l'impression.
Non, ben c'est d'ailleurs commencé. Hier, Paul Saint-Pierre Plamondon disait « Mark Carney va donner des cadeaux à Christine Fréchette parce qu'il sait qu'avec Fréchette, la CAQ va se plier devant le Canada. » Puis de l'autre côté, les libéraux disaient « Ben Fréchette ou Legault, c'est pareil. » Mais je te fais entendre Charles Milliard ce matin sur nos ondes. Tu vas voir, c'est un échange entre moi et lui. J'ai tenu à avoir des réponses un peu plus claires sur justement son positionnement par rapport à la loi 96 et surtout la clause dérogatoire.
Quand même incroyable là, ce matin. Ça fait 3 semaines que Mme Fréchette est première ministre puis qu'elle souhaite à tout prix se distancer du gouvernement puis du style de M. Legault. Qu'est-ce qu'on a ce matin? Une bonne vieille stratégie caquiste de mêler les Québécois sur les questions identitaires. C'est vraiment ça la priorité ce matin. Là. Il y a 12 000 itinérants un peu partout au Québec. Les gens ont de la misère à payer.
Ouais,
je comprends
tout ça, mais ma question,
incroyable.
C'est vous allez faire quoi?
Écoutez,
vous allez
moi,
dire oui à Mme Fréchette ou non?
Je ne vais pas dire oui à Mme Fréchette. On va voir exactement quelle forme ça prend. Mais ce qui est certain, c'est que moi, j'ai mentionné que la loi CAQIS 96 n'est pas parfaite. Il y a des modifications à faire. Elle nuit aux entreprises. Elle n'améliore pas la qualité du français de façon crédible en ce moment. Alors, je ne vais pas reconduire une clause d'une loi que je veux changer.
Et il a rajouté un peu plus tard dans l'entrevue.
Alors, plus de prospérité économique pour payer nos services publics, pas mal plus prioritaire que de renouveler une clause qui, d'ailleurs, est devant les tribunaux aussi. Il faut savoir, là, je comprends que les gens ont d'autres choses à faire dans la vie, mais la Cour suprême va se pencher sur ce dossier-là. Donc, renouveler un an à l'avance, c'est juste une tactique politique pour tendre des pièges.
Tu sais quoi, moi, Antonine, je suis un francophone. La troisième voie m'a toujours parlé parce que je me considère pas comme souverainiste. Puis là, ben Charles Milliard vient de me parler demain matin. Il m'a perdu complètement parce que je suis fier de ma langue, je suis fier de l'identité qu'on a au Québec. Je suis très, 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 très fier qu'on se soit éloigné de la religion. Puis là, lui, il me ramène dans une patente à gosse de Cour suprême qui va décider pour moi. Puis que, ouais, tu sais, la loi est pas parfaite, faudrait changer ça. Puis ça, hey, c'est une loi qui défend ma langue, mon identité. Moi, je souhaite qu'on ait une clause dérogatoire pour que personne vienne jouer dedans.
Ben, c'est ça. Puis je pense que ton opinion est très représentative d'une bonne partie de l'électorat francophone. C'est très compliqué pour M. Milliard, son positionnement sur ces enjeux-là. Il s'est fait rabrouer par son caucus la semaine passée quand il a dit que oui, la clause dérogatoire pour défendre la langue française. T'sais, de nous dire que le projet de loi n'est pas parfait, très bien, qu'est-ce qu'on va changer exactement? Ça, moi, c'est ça que je veux savoir. On nous dit que ça nuit à l'économie. Honnêtement, Jeff, c'est vrai. C'est un choix parce que les entreprises trouvent ça bien compliqué, puis les entreprises étrangères trouvent que c'est un casse-tête. C'est un choix de société qu'on fait. Puis c'est vrai que nos lois linguistiques ont un impact économique. Il faut en être conscient, il faut être transparent. Mais on a un choix à faire. J'ai particulièrement de la difficulté avec son argument sur la qualité du français. Moi, j'ai ça, là. Il y a une gang de libéraux qui n'arrêtent pas avec ça. Ça veut défendre la langue française, mais il faudrait qu'on parle un français parfait. C'est pas ça le point. Bien
pas
sûr tout. Qu'on veut augmenter la qualité du français. Je suis pas contre ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de se faire servir en français à Montréal. Hey, j'ai pas besoin que tu sois parfait dans tes subjonctifs passés, là. C'est pas ça, là.
Ben non.
OK? On veut que les gens soient capables de travailler en français. c'est ça la priorité au Québec.
Ben exactement. Je l'ai raconté pendant ton absence maladie. Je suis allé passer un week-end à Montréal. Je me retrouve sur une terrasse d'un resto sur la rue Maisonneuve. La serveuse parlait juste en anglais. J'ai fait exprès pour parler juste en français. Ben, ça m'a pris une heure avant d'avoir mon drink parce qu'elle ne comprenait pas ce que je disais.
Tu sais, OK, oui, je comprends que les jeunes parlent moins bien français puis disent des anglicismes, là, mais c'est pas ça le nœud de l'affaire. Le nœud de l'affaire aussi, c'est que politiquement, il est pogné à faire le funambule entre un caucus qui est très montréalais et anglophone, mais qui doit aller chercher le vote francophone dans les régions. Donc, vraiment, c'est un bon coup de Christine Fréchette.
Ben
c'est
sûr
que Charles Millard, il dit « Ah, Gavoyer, c'est des gamiques de caquistes. » Ben, c'est pas... Il y a quand même quelque chose sur le fond des choses aussi à travers ça. Là.
C'est pas une gamique de caquistes, c'est protéger notre identité. Puis tu sais, si c'est un jeu politique, ça sera un jeu politique. Ça fait partie de la game. Tu te positionnes d'une certaine façon si t'es le PLQ. Ben, la CAQ se positionne d'une autre façon parce que c'est la CAQ. Puis moi, ben, j'endosse beaucoup plus le positionnement de la CAQ versus la protection de notre langue. C'est tout simplement ça.
Puis en plus, c'est que Mme Fréchette, elle a de la pression pour se différencier de Charles Millard. C'est parfait. Il l'a attaqué. Il trouve ça bien épouvantable à matin. Je veux dire, dans le cabinet de Mme Fréchette à matin, ils prennent leur liste d'objectifs, là, puis tout est rempli. Là.
C'est ça.
C'est gagnant pour Mme Fréchette à 100 %. Donc là, cet après-midi, 14 heures, ça va être son discours d'ouverture. Il n'y a pas de période de questions comme telle aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est la journée de la première ministre. Est-ce que les oppositions, les groupes d'opposition vont l'attaquer? Évidemment, il va y avoir des réactions, il va tout ça. Mais c'est vraiment demain que la vraie game, là, la joute politique va recommencer. Puis là, ça va être un peu moins facile pour Mme Fréchette, qui, honnêtement, a toute une pente à remonter. Ça va bien, là. Ça va, c'est très bien, là, ce qu'elle fait. Là. Puis là, tout le monde dit que c'est un sans-faute. Mais on s'entend que le vrai test, ça va être est-ce qu'on est capable de commencer à annoncer des grosses candidatures pour la CAQ? Parce que les libéraux, QS et le PQ, ça n'arrête pas. Là. Sur les plateformes de médias sociaux, là, à chaque semaine, on a plusieurs candidatures. Puis, tu sais, QS, on en parle un peu moins. Mais ça va bien, leur recrutement. Mm-hmm. Là, je vois qu'ils annoncent beaucoup. Parti conservateur, un peu moins ces temps-ci, mais quand même, je pense que ça risque de se passer assez bien pour Éric Duhaime. Mais la CAQ, c'est des départs qu'on annonce.
Ben
c'est ceux qui étaient dans l'ancienne gang qui annoncent leur départ. C'est moins gagnant un petit peu. Là.
En effet, je suis entièrement d'accord avec toi. Hey, on parle de langue française, Antonine Crime. Notre nouvelle gouverneure générale parle en français.
Wouhou! Wow! Hey, on s'extasie.
C'est l'enfer. Hein? Hey, on est tellement contents. Mais on est tellement contents pour ce qu'elle représente. D'accord, je te fais entendre deux extraits de sa conférence de presse. Écoute bien ça.
Je tiens à exprimer ma gratitude à Sa Majesté le Roi pour cet honneur et pour l'occasion qui m'est donnée de servir le Canada à ce titre. Et je souhaite également souligner l'apport extraordinaire de Mary Simon, qui a servi notre pays avec un dévouement indéfectible. Elle a représenté les Canadiennes et les Canadiens avec dignité et compassion.
Bon, je vais m'arrêter là parce que le deuxième, je sens qu'on va perdre le momentum du premier, OK? Elle parle français, elle me représente vraiment parce que moi aussi, à chaque soir, je pense au roi Charles. Puis je me dis, oui, merci, roi Charles, d'avoir fait le Canada. C'est grâce à toi, je suis content que tu nous mettes quelqu'un comme la gouverneure générale qui nous coûte des centaines de milliers de dollars par année dans les pâtés. Puis je suis super content. Moi aussi, je trouve que Mary Simon, elle représentait tous les Canadiens et Canadiennes. Elle disait pas un mot du mot français.
Ah, c'est vraiment important, je...
Ouais, c'est
le
vrai.
Français.
Depuis c'est tantôt, surtout... je parle de langue. Je suis donc bien déconnecté.
Mais en plus, surtout dans un poste aussi névralgique que celui de gouverneur général. Hein? Ça, là. Mais, tu sais, honnêtement, c'était vraiment un mauvais coup de Justin Trudeau de réussir à s'auto-pelure, de bananiser en nommant la gouverneure générale qui ne parle pas un mot français.
Ouais.
On était dans la symbolique, puis là, c'est important, les communautés autochtones. Absolument. Sérieusement, j'en connais énormément de personnalités autochtones qui parle français et anglais. Là. C'était pas nécessaire de la part de M. Trudeau de faire ça, mais il a réussi à créer une espèce de scandale pour un poste dont tout le monde se fout complètement au Québec.
Ben,
honnêtement, on s'en fout.
Exactement, comme Kim vient de nous écrire, la dernière qui parlait français, elle nous a fourrés, me semble-t-il.
Bon, puis là, ça, c'est l'autre affaire.
C'est une exception.
Non, mais ça, c'est l'autre affaire. C'est que c'est scandale après scandale. C'est bon, il y a eu les folies de l'ancienne astronaute, là, Julie Payette.
Oui.
Il y a eu les dépenses somptueuses de Raphaël, de Michael Jean.
J'ai pas d'eau chaude.
Michael Jean avec le piano en France, là, c'est
avec
ça.
Avec le piano, puis il fallait tout qu'elle rénove parce qu'elle n'avait pas d'eau chaude pour se laver. Écoute, puis tu sais, nous, en plus, au Québec, on a un lieutenant-gouverneur, puis nous aussi, on a eu un scandale de dépenses somptueuses, ouais, à une certaine époque avec notre lieutenant-gouverneur. Donc, nous, c'est ça, notre expérience, avec un poste pour lequel on n'a pas d'attachement. Tu sais, en Grande-Bretagne, la couronne, tu sais, moi, j'ai tout écouté The Crown, là, j'adore ça, là, les affaires de royauté, mais c'est pas, ça n'a pas de lien avec nous, surtout non, particulièrement les Québécois, mais je pense qu'il y a pas mal de Canadiens anglais aussi qui s'en balancent, mais complètement, ça n'a pas d'importance. Donc, bravo d'avoir nommé Louise Arbour, c'est une femme exceptionnelle, qui a eu une carrière exceptionnelle, là, on lui donne une récompense là, avec un poste honorifique. Elle est en fin de carrière, mais je veux pas, je suis désolée
mais
de parler de,
général,
de la personne,
là,
mais gouverneur, elle a 79 ans.
Ouais. Gouverneur général, ça pourrait pas être un petit jeune de 32-33 ans là, qui est full dynamique. Pourquoi c'est toujours quelqu'un qui a fini sa vie?
Ben, oh my God!
Absolument qui a fini sa vie. Qui est en fin de carrière, on va dire ça comme ça.
Je m'excuse, j'ai eu le mauvais langage.
C'est bien correct, mais en
j'ai fait de l'âgisme, pardonnez-moi.
C'est quoi les compétences sont requises pour faire ça, à votre avis? La première, c'est d'être capable de prononcer un discours qu'on t'a fourni. Parce que c'est le gouverneur général qui fait le discours du trône, mais si je veux dire, c'est le cabinet du PM qui te le fournit. Là, tu fais juste le lire. Il faut que tu sois capable de livrer un bon discours, mais tu n'as pas besoin de l'écrire comme tel. Après ça, on s'attend de toi à ce que tu aies un bon jugement. Je pense, après tous les scandales qu'on a vus de dépenses somptueuses, ben, on veut quelqu'un qui a un bon jugement, qui ne prend pas trop de place, qui ne fait pas trop de vagues. Donc, pourquoi mettre un jeune dynamique dans ce poste-là?
C'est vrai, t'as raison. On perdrait notre temps.
C'est vraiment une affaire de fin de carrière. Moi, j'ai hâte de voir si Mark Carney va faire jouer un rôle à Louise Arbour, parce que, honnêtement, elle est overqualifiée.
Ben oui, mais là, écoute bien ça, justement. Elle s'est donné un rôle à la conférence de presse. Écoute bien.
Je suis d'ailleurs pleinement consciente de la responsabilité que je vais assumer à titre de commandante en chef des Forces armées canadiennes. J'ai beaucoup de respect pour le service et le professionnalisme des femmes et des hommes en uniforme. Et ce sera un immense honneur pour moi de me retrouver parmi eux.
J'ai confiance. On va être bien défendu avec elle comme commandante en chef.
Ben, écoute, elle a une connaissance de la diplomatie qui est vraiment extraordinaire, mais je veux dire, quel rôle elle pense qu'elle va jouer? À moins que Mark Carney décide de révolutionner le poste.
En effet.
Je veux dire, non. C'est un poste qui est symbolique, qui est honorifique. Qu'il y a beaucoup de résonance, la couronne a beaucoup de résonance en Grande-Bretagne, un peu moins au Canada et encore moins au Québec. Donc, tu sais, il n'y a personne qui va tirer à boulet rouge aujourd'hui sur Louise Arbour. Okay? C'est une femme très, très bien qui suscite le respect. Mais ça ne change rien. Puis, tu sais, le fait qu'elle parle français, c'est juste un minimum. Tu sais, comment on est rendu à s'extasier devant se faire donner le strict minimum. Là. C'est quelque chose de décourageant.
On ne fera pas une ovation pour Mark Carney pour ça.
Non.
Antonine, on finit avec la politique municipale parce que Cédric Véraud, qui est l'attaché de presse du maire Bruno Marchand, était victime cette fin de semaine sur les médias sociaux d'attaques à son égard, notamment d'attaques homophobes. Il était en entrevue hier dans Gravel dans le retour et il a expliqué pourquoi il a tenu à faire cette sortie publique.
T'sais, vous l'avez dit, hein, en 2026, ça surprend. Puis je suis le premier à être surpris parce que moi, j'ai jamais vécu ça. Mm-hmm. Je suis né à Québec, mais j'ai grandi en région, que ce soit au secondaire, à l'université, dans mes implications, dans mes autres jobs. Mon orientation sexuelle n'a jamais été un objet de discussion. A jamais été un objet d'insulte ou
non?
D'harcèlement.
Mm.
Non, pour ça, je suis un privilégié de la vie parce que je sais que ça existe encore, ouais. Évidemment. Là.
Hey, ça n'a-tu pas d'allure? Le gars fait de la politique, il est attaché de presse de Bruno Marchand. Il fait un excellent travail, je le répète. Il est disponible pour tous les journalistes, tous médias confondus.
Il n'est même pas de l'avant nécessairement.
Non,
avec
exactement.
Nous, on n'a pas le choix, on travaille avec lui au day-to-day pour les entrevues, tout ça, ça fait partie de notre travail.
Ah oui.
Mais est-ce que vraiment les gens...
Ben là, c'est parce qu'il s'est retrouvé dans le portrait de quelques photos prises dans les journaux ou de reportages télé, mais c'est parce que... Lui, sa job, c'est d'être à côté du maire, d'enregistrer ce qu'il dit. Puis après ça, quand les médias sortent des cotes, comme nous, on fait à Boulevard 101, ou que les journalistes à l'écrit transcrivent les commentaires de Bruno Marchand, lui, il s'assure que c'est ce que bel et bien était dit quand c'est mis dans les guillemets ou dans les extraits. Donc, Il n'a pas le choix d'être à côté du maire. Là. Il n'est pas là comme, tu sais, on dit, ah, regardez l'admirateur du maire. C'est pas un admirateur, c'est un attaché de presse qui fait sa job.
C'est, oui, puis moi, j'ai fait ce job-là. C'est vrai que tu es souvent dans la shot, mais tu n'es pas une personnalité publique. T'sais, le fait qu'il y ait des gens qui prennent du temps de leur journée pour aller écrire des commentaires parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait quelqu'un en arrière du maire qui était gay, là, j'en tombe à la renverse, honnêtement. Puis, évidemment, on n'est pas surpris qu'il y ait de l'homophobie. On sait que ça existe encore. Puis, il suffit d'avoir des amis, effectivement, de la communauté pour savoir que c'est pas terminé, l'homophobie. Là. C'est pas quelque chose qui est réglé, classé. Je suis très contente d'apprendre que Cédric a pas vécu trop d'homophobie dans son parcours, mais effectivement, il le dit, c'est un privilégié. Mais honnêtement, message à ceux qui écrivent des messages homophobes, comme on a vu, vous ralentissez le groupe, la gang.
Ouais, ouais,
en 2026, là. Genre, j'avais l'impression, je lisais les commentaires, là. J'ai l'impression qu'on est en 1982.
Non, ça me fait peur qu'il y ait des gens qui retirent autant de plaisir à juste être méchant pour être méchant. T'sais, c'est même pas, on n'est pas dans un débat d'opinion.
Ben,
on n'est pas.
On le sait. On le sait qu'il y a du monde méchant. Hey, t'sais, vous êtes des personnalités publiques aussi. On voit sur les plateformes de médias sociaux. Il y a des gens qui s'assoient là, devant leur iPad là, puis qui prennent le temps de nous dire qu'ils nous trouvent laids, puis qu'ils nous trouvent caves, puis de nous envoyer une insulte. C'est décourageant. Mais en plus, quand ces insultes-là, c'est pour ton orientation sexuelle, ta couleur de peau, ton origine. Ça me fait halluciner, honnêtement. Puis, il faut vraiment le dénoncer. Et le maire, ben, on dit Cédric a décidé de faire cette sortie-là. Le maire lui-même aussi a fait une publication. Je trouve qu'il a extrêmement bien fait parce que ça fait en sorte d'offrir un espace où il y a plein de gens, des personnalités publiques et des citoyens ordinaire de lancer vraiment un message pour pas laisser toute la place à ces espèces de trolls déplaisants, puis j'ai envie de dire un peu attardés mentaux, pardon, de prendre tout l'espace puis que
t'as
les gens qui ont de l'allure prennent l'espace.
T'as pas besoin de dire pardon après attardés
mentaux. On a envoyé un message clair cette semaine. J'ai vu beaucoup de personnalités publiques et de citoyens qui ont pris la parole pour exprimer leur solidarité puis dénoncer ces propos-là. Au moins, si ça peut un peu contrebalancer les gens qui ralentissent le groupe, ben, tant mieux.
Ben exactement. Et Cédric a conclu justement là-dessus avec la fameuse plateforme X.
Parce qu'on dit, ah, c'est sur X, ils sont tous de même sur X. Non, mais c'est faut pas céder le pas, faut pas que ce discours-là puisse s'installer dans l'espace public sans qu'il y ait un jugement collectif là-dessus. Puis ça me rassure parce que depuis, je vous jure, là, je peux même pas consulter mes notifications. C'est une déferlante de messages de soutien que je reçois. Bon. Puis je les apprécie, mais tu l'as mentionné tout à l'heure, est-ce que ça se rend vraiment aux cibles ensuite, ces dénonciations-là? Sûrement pas. Mais après ça, ce qui m'encourage, c'est que ça prouve encore une fois que les médias sociaux sont un prisme déformant.
Tellement.
Et ça, c'est quelque chose dont je suis conscient depuis que j'occupe cette job. Parce que si c'était juste des médias sociaux, ben, je ne serais pas dans cette chaise en train de vous parler parce qu'on n'aurait pas été réélu. Vous comprenez?
Ouais, j'adore sa pointe à la fin de dire on n'aurait pas été réélu parce que c'est vrai que si on fait juste regarder les médias sociaux, on pense que Bruno Marchand a 5% d'approbation de la population, ce qui n'est pas le cas. Merci de commenter au 418-971-1021. T'es un auditeur, une auditrice qui nous écrit hey, « Étonnant que ça vous étonne encore des trolls sur les réseaux sociaux. » Et une autre auditrice qui écrit « C'est inadmissible les propos tenus à propos de Cédric Véro. Ça me révolte. » C'est pas étonnant pour moi que ces trolls-là existent, mais je vais toujours me faire le devoir d'en parler parce que je pense que d'en parler, de contrecarrer leur plan, ça va faire en sorte qu'il va en avoir de moins en moins. C'est du moins ce que j'espère parce que, Colin, que quand vous écrivez des commentaires homophobes, vous avez l'air d'un gros toton qui n'a pas de vie.
Exactement. J'ai rien à ajouter, Jeff. J'approuve tout ce que tu viens de dire.
Merci, Antonine, pour l'excellent caucus Iaccarini. Demain, on va se parler parce qu'on a de la belle visite dans Marceau le matin pour commenter la première journée de Christine Fréchette. On a Marois Risky qui va venir s'installer en studio à 7h30. Puis on a Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ, à 8h30. Fait que je vais te sortir des codes de ça, si tu peux tendre l'oreille, et on va se parler de ces deux entrevues-là, si ça te dérange pas.
Sans faute. À demain.
À demain. Antonine Iaccarini dans le caucus. C'est du lundi au jeudi de midi à 12h30 sur les ondes de Boulevard 101 dans l'émission On en jase. Hey Pascal, on a beaucoup parlé de Génération Trans, hein, le documentaire de Jean-Pierre Roy.
Qui a été bloqué là, du côté du cinéma quartier.
Exactement. Et dans Génération Trans, il y avait le témoignage de Rose Guérin, qui est une jeune fille qui était passé à Maxime et qui a décidé de revenir à Rose et qui expliquait les difficultés qu'elle a vécues pour son processus de détransition. On va l'avoir en entrevue vendredi, parce que c'est vendredi qu'elle est disponible. Donc, mettez ça à votre agenda. Vendredi, 13h à l'émission On en jase. Rose Guérin va être avec nous.
Toi, tu dis, on boycotte le documentaire, fait qu'on va aller chercher les intervenants pour avoir la discussion.
On va faire le documentaire en ondes, nous autres, parce que on en parle beaucoup, hein, puis on parle de l'âge et tout ça. Donc, je vais vous en reparler un peu pour mettre en place après la pause, parce qu'elle, son processus, il a commencé à 13 ans. Puis là, à 22 ans, elle dit ouais. À 17 ans, elle dit ouais, finalement.
C'était pas nécessairement ce que je souhaitais, finalement.
Je me suis trompé. Donc, ouais. Je vais vous en parler. Et on va parler de politique municipale avec Alicia Despins. Savais-tu que dans l'équipe de Stephen Blaney, il y a un premier Rififi à la Prospérité Lévis?
Ben, je suis pas très surprise. Là. Ils ont-tu des défis sur les épaules, ben, quand même? Ça.
Puis là, il y a un premier Rififi autour du troisième lien.
Ouais.
Oh, on parle de ça dans quelques instants à Boulevard 102.
L'hiver a été difficile pour votre voiture, c'est une affirmation parce que c'est toujours difficile, hein? La gadoue, le calcaire, puis là, on est rendu à la mise au point de ce véhicule-là pour l'été. Alors, je vous amène chez Pièces d'auto économiques, c'est le leader au Québec pour les pièces d'auto et les accessoires, c'est vraiment la place. Entre autres, vos pneus, moi, je viens d'aller chercher mes nouveaux pneus d'été là-bas, ils ont une panoplie de sélection, toujours au meilleur prix, c'est aussi facile que ça. J'en ai profité pour prendre du Rain-X, c'est la chose que j'aime le plus aussi mettre sur mes pare-brises. Et j'ai vu les rabais. 15% de rabais sur les disques de frein de première qualité. Brake Max, c'est à forte teneur en carbone pour un freinage plus en douceur si vous en avez besoin. Sinon, 20% de rabais sur les plaquettes de frein Bosch. Et là, on est super fiers parce qu'on a une nouvelle entente. Du côté de Pièces d'auto économiques, c'est maintenant en inventaire tous les produits d'origine Mopar et B-Pro pour les propriétaires d'auto Chrysler, Jeep, Dodge. Mettez ça là, dans votre oreille puis passez-le le commentaire à ceux que vous connaissez qui en font partie parce que, exemple, vous cherchez une pièce d'origine du fabricant pour votre Dodge Ram, ben là, tu peux le commander directement chez Pièces d'auto économiques avec les meilleurs prix. Je vous rappelle, c'est pour l'inventaire des produits d'origine Mopar B-Pro pour les propriétaires d'auto Chrysler, Jeep, Dodge. Donc, en magasin, entre autres, Charest vous accueille maintenant aussi le samedi matin de 8h à midi si jamais, mais c'est la référence au Québec avec 8 magasins, toutes des grandes marques, des pièces neuves, garanties, un site transactionnel. Toujours de la qualité, toujours moins cher. pièceéconomique.com.
Votre avis. Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto et que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase.
Et on est en gros questionnement, moi et Pascal, c'est...
Pleut-tu? On regarde les flaques, on voit
tout. Pleut pas, puis là, on regarde dehors. Pourquoi on se pose cette question-là? On en jase, c'est simple, parce que c'est 17 degrés aujourd'hui, mais avec des averses.
Pis,
là,
ça a l'air mouillé, mais ouais, est-ce qu'en ce moment, il pleut?
Donc là, on se disait, est-tu en train de mouiller ou pas? Mais bref, il va en avoir cet après-midi, malheureusement. Et faites attention, ça peut être des rafales jusqu'à 70 km/h. Donc, ça va être des bons... un averse, hein? Oui, des bons averses qui va tomber. Un ou une averse?
Une.
Une?
Oui.
Des bonnes averses.
Une averse de pluie.
Ben oui, voyons. Qu'est-ce que j'avais là avec mon français? Pluie intermittente pour demain, 8 degrés. Demain, mercredi, on parle jusqu'à 10 mm de pluie. Retour du soleil, par contre, pour jeudi, 13 degrés et vendredi, 10 degrés Celsius. On vous parle souvent de notre application de blvd.fm et là, je vous parle de notre page YouTube. Pourquoi? Parce que si vous êtes abonné à notre page YouTube Boulevard 101, le quatrième épisode du podcast Les grands événements de Québec est disponible depuis ce matin. C'est un entretien avec Roger Ferland, un collaborateur qu'on adore ici à Boulevard, ex-enquêteur au SPVQ. Puis ça donne qu'il était l'enquêteur en chef du groupe Shark, le groupe d'enquête qui a fait un excellent travail durant la guerre des motards. Alors, Roger revient sur cette époque entre 1994 et 2002 où le conflit a fait plus de 150 morts, dont 9 personnes innocentes. C'est un podcast à ne pas manquer. C'était sur nos ondes hier, 19h. Et là, c'est disponible sur notre page YouTube. Donc, ne manquez pas ce podcast. Allez l'écouter en grand nombre. Pascal Séveille, là, il se passe plein d'affaires. Oui. Il semble avoir une manifestation anti-gouvernement devant l'Assemblée nationale. C'est vrai que ça irait mieux si on n'avait pas de gouvernement. L'anarchie, toi!
Ouais, là, à voir comment on gère les réseaux sociaux, je suis pas certaine que ce serait l'idée qu'il n'y ait pas minimalement un encadrement. Mais tu sais, ça, c'est... Écoute, ce sont des commentaires qui n'engagent que moi.
Exactement.
Mais oui, il y a manifestation en ce moment devant l'Assemblée nationale à Québec. C'est effectivement une manifestation anti-gouvernement. Pourquoi? Ben, à 14h, on attend le discours inaugural à l'Assemblée l'Assemblée nationale de Christine Fréchette. Alors, il y a des attentes. C'est la première fois qu'elle sera à l'intérieur des murs en tant que première ministre. Alors, tout le monde va avoir les yeux rivés vers ça. Ça se peut que vous, à Shop, non. Là, on comprend, mais on va le suivre pour vous. Ce qu'on croit aussi qui sera annoncé cet après-midi, du moins discuté, c'est un nouveau projet de loi. Alors, tout premier projet de loi déposé sous Christine Fréchette. C'est pour renouveler dès maintenant la disposition de dérogation de la Charte canadienne des droits et libertés pour blinder la loi 96 sur le français. C'est contre les poursuites pendant 5 ans. C'est la presse qui avait appris ça ce matin. Et le ministre Jean-François Roberge va être porté de déposer le projet de loi là, dès demain, au lendemain donc du retour des députés à l'Assemblée nationale. Chose qui est faite aujourd'hui. Mais on a eu quand même confirmation à ce niveau-là. Si vous étiez dans le caucus Iacarini, vous avez appris en même temps que nous que Claude Villeneuve est le nouveau directeur des communications à l'aile parlementaire du Parti québécois.
Excusez-vous, c'est Boulevard en passant. On a été les premiers à le sortir avant le Journal de Québec de Québécois. Donc, c'est payant d'écouter Boulevard 102.
Claude Villeneuve, qui était candidat à la dernière course à la mairie, je veux dire ça comme ça, de la ville de Québec et qui a été connu pour plein de chapeaux. Là. C'est pas la première fois qu'il est en politique. Cette fois-ci, il va se retrouver un peu plus derrière, mais c'est un poste clé que d'être directeur des communications. C'est l'ancienne juge à la Cour suprême du Canada, Louise Arbour, qui devient la prochaine gouverneure générale du Canada. Elle succède donc à Mary Simon. C'est un poste prestigieux, bien que... Il y a beaucoup de critiques à cet endroit-là, mais c'est le poste de représentant du roi Charles au Canada. Tout un CV, Mme Arbour, entre autres comme haute commissaire des Nations unies aux droits de la personne. C'est vraiment quelqu'un qui a une fiche étoffée. Les villes de Québec et de Montréal lançaient un cri du cœur aujourd'hui au gouvernement Fréchette. On veut s'attaquer à la crise des infrastructures. Et aujourd'hui, il y a eu prise de parole de notre maire Bruno Marchand. Il était dans une conférence avec la mairesse Soraya Martinez-Ferrada du côté de la communauté métropolitaine de Montréal. Ce qu'on dit, c'est que on demande, en fait, d'arrêter c'est dit de même, là, Christie d'appel à projets qui prennent du temps et qui sont supposés s'en venir, mais qui sont souvent insuffisants. C'est ce que notre maire de Québec a dit haut et fort aujourd'hui.
Ben moi, je suis très d'accord avec lui, mais ça, c'est pour toutes les strates de gouvernement, autant le fédéral que le provincial, que même le municipal. Essaye de partir un projet, c'est un organisme communautaire ou une entreprise. Hostif que t'as de la paperasse à remplir.
Puis là, elle réclame, la Ville de Québec et de Montréal, donc de revoir complètement le financement des projets. On veut donner l'argent nécessaire aux villes pour qu'elles s'attaquent elles-mêmes au déficit, donc un petit peu plus de gestion personnelle,
oui.
Là, au niveau
oui,
de la
Oui, puis un petit peu plus de latitude aussi. Oui. Puis, tu sais, cela dit, on peut être en désaccord avec nos mairies respectives, mais normalement, là...
Là-dessus,
c'est pas mal eux autres, les maires et mairesses qui connaissent un petit peu plus ce que le terrain a de besoin que le grand Mark Carney qui est à Ottawa ou un peu à travers le monde. Fait que je suis d'accord avec eux sur la proposition et l'objectif derrière ça.
Permets-moi de mettre de côté les audiences sur la mort de Maëline Luguez, parce qu'on va en reparler plus tard.
Exactement.
Avec la journaliste du Soleil. Permets-moi aussi d'aller vite sur, malheureusement, là, les deux mineurs frappés du côté de Beauport hier, là, à l'intersection du boulevard des Chutes et de la rue Francheville. On sait qu'il y a un homme qui a été arrêté. On attend toujours qu'il comparaisse aujourd'hui au palais de justice de Québec, arrêté pour conduite dangereuse causant des lésions. C'est un homme de 67 ans. Et pourquoi je me suis permis ça, c'est pour donner un peu de temps à cette nouvelle-là qui vient de sortir.
Vas-y.
Écoute, c'est digne d'un film. Là, c'est un gars qui s'appelle Mathieu Giguère qui forçait des victimes à consommer de la drogue, à écouter des lectures religieuses et qui les agressait par la suite. C'est un dossier sur un homme de Donnacona. Il a reconnu avoir agressé sexuellement 2 femmes. Il les hébergeait chez lui dans un genre de délire religieux, puis il les incitait à boire un genre de potion de champignons magiques et il les forçait à avoir, entre autres, une relation à 3 dans ce qui est déclaré là, dans l'article du Journal de Québec.
Ouais.
Puis ça a laissé des séquelles psychologiques importantes à l'une de ces femmes-là. Elle, comment elle a dit ça en cours, c'est qu'il lui a transmis un cancer de l'âme. Et c'est des conséquences à des événements qui sont assez proches de nous. C'est à l'été 2025. Donc,
ça vient
l'été
de se produire.
Passé. Alors, comme je vous disais, c'est Giguère, là, Mathieu Giguère,
ouais,
qui est condamné à 42 mois de pénitencier pour agression sexuelle sur 2 femmes.
Hey, on ne le dira jamais assez, mesdames, si quelqu'un vous dit qu'il faut absolument faire une relation sexuelle, vous n'avez pas le goût, là. Le consentement, vous dites non, puis c'est fini.
Puis on entend beaucoup parler du phénomène de se faire héberger avec la hausse des loyers,
oui,
contre des relations
Quel
sexuelles.
Bon point.
Marketplace, c'est étrange, mais des fois, il y a ce type d'annonce-là. Puis c'est un peu ce qu'il faisait, lui. Il les hébergeait dans un genre de bateau insalubre qui était sur son le terrain d'une connaissance. Puis là, c'est là qu'ils fournissaient de la drogue en échange. Ouais, c'est là qui les obligeait, tiens, à avoir.
C'est
des
beaucoup comme ça que ça se passe. Pense au fameux Père Noël là, du Petit Champlain, qui avait le même modus operandi. Ouais. Hey, je vais juste vous parler rapidement avant qu'on parle avec Alicia Despins de l'histoire de Rose Guérin, qui est une jeune femme maintenant âgée dans la vingtaine, qui, à 13 ans, a décidé de faire un processus de transition de genre. Vous avez bien compris, à 13 ans. Son témoignage est dans le documentaire « Génération trans » de Jean-Pierre Roy, qui a été annulé, la projection qui a été annulée au cinéma Quartier, en raison, là, justement, de pression très forte de la communauté. Eh bien, sachez qu'à 13 ans, et dès l'âge de 14 ans, on lui a prescrit de la testostérone pour que Rose devienne Maxime. À l'âge de 16 ans, elle s'est fait enlever les deux seins. À ce moment-là, tous ces traitements-là sont couverts par le régime public d'assurance maladie, donc la RAMQ. À 17 ans, juste avant la grande opération, donc avant de faire changer son sexe, elle décide de ne plus continuer son processus de transition et elle dit alors à sa mère, en fondant en larmes, que dans le fond, je suis pas un gars. J'avais toujours été juste une fille très mal dans sa peau, se souvient celle qui travaille maintenant comme patrouilleuse pour la SPCA de Montréal. Et là, bien, elle veut suivre des traitements de détransition, donc se faire enlever la pilosité masculine, éclaircir sa voix, reconstituer ses seins. Elle a maintenant un copain. Par chance, le processus avec la testostérone et tout ça font en sorte que ça ne lui a pas enlevé sa fertilité. Elle est encore fertile. Elle souhaiterait...
Mais ça aurait pu, c'est ce qu'on comprend.
Ça aurait pu. Elle souhaiterait avoir des enfants. Et là, ça coûte 30 000 $. Mais sais-tu quoi? La RAMQ, elle ne paye pas pour la détransition de genre. Elle paye pour la transition, mais pas pour la détransition.
Ça, c'est des choses importantes à discuter, je pense, dans le fameux phénomène de transition de genre. Avec les enfants, on ne peut pas avoir tout sur la table pour un projet de société. Mais je sais que c'est un projet personnel, c'est une quête d'identité, mais ça reste que c'est le genre de discours important.
Exactement. Et il y a l'Université York à Toronto qui a analysé justement, qui a fait une étude auprès de 957 personnes qui ont fait la transition de genre dans le même cas que Rose avait fait pour devenir Maxime. Et j'ai été étonné du résultat parce qu'il y a un tiers des répondants qui disent avoir un fort sentiment de regret décisionnel par rapport à leur processus de transition de genre. Ça, ça m'allume énormément parce que on en parlait l'autre jour, on en jase, on disait, ça me semble que c'est un processus qui devrait être accompagné par un psychologue, qui devrait être accompagné par un psychiatre. Ça devrait être un processus où je suis énormément d'étapes avant d'en arriver à ma transition de genre, qui devrait arriver aux alentours de l'âge adulte. Parce que, tu sais, si avant 18 ans, tu n'as pas l'âge de consommer une bière, je pense pas que tu as l'âge pour décider de quel genre tu es. Et là, j'ai trouvé ça vraiment étonnant et dérangeant comme statistique que le tiers des 957 personnes, fait que ça veut dire au-delà de 300 personnes, regrettent leur décision. On va parler avec Rose Guérin vendredi 13h. Ne manquez pas ça, c'est un rendez-vous. C'est la disponibilité qu'elle avait cette semaine pour nous. J'ai très hâte de discuter avec elle. Je vous souhaite le bonheur dans sa vie puis j'ai hâte de voir justement vers tout le parcours. Puis si jamais vous voulez l'encourager dans son processus de détransition, on va en parler aussi vendredi, mais elle a parti un GoFundMe pour ramasser le 30 000 $ qui n'est pas assumé par la RAMQ dans ce cas-là. Ouais, c'est une belle entrevue, ça, Pascal?
Oui, j'ai hâte de l'entendre.
Moi aussi.
Je la trouve très courageuse.
Ah, vraiment très courageuse. Puis chapeau à elle de sortir comme ça dans les médias, de mettre son visage pour le Québec en entier, pour parler justement de cette problématique-là. Tu sais, il y a deux problématiques, moi, que je vois là-dedans. La problématique de l'âge qui est beaucoup trop précoce pour décider d'une transition de genre et la problématique, si la RAMQ paye pour la transition, pourquoi paye pas pour la détransition? Je trouve ça un petit peu bizarre de la part de nos paliers de gouvernement.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Aubaine, des produits de qualité à prix de liquidation. Des nouveaux...
Mon erreur, je croyais avoir placé un petit bed, comme on l'appelle dans le jargon, puis ça a l'air que je ne l'avais pas placé. Alors, c'est l'heure d'aller rejoindre Alicia Despins, notre chroniqueuse en politique municipale. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Alicia, c'est une trollée de nouvelles en une journée en politique municipale. Comme tu m'as écrit, c'est une semaine de politique municipale qui est là pour nous. On commence.
Il est juste 13 heures, là.
Oui, c'est ça. On va commencer avec Respect citoyen, une amende de 1 000 concernant justement un retard pour avoir déposé nos états financiers. Ça, c'était en 2024.
Oui, 1 000 $, ça fait mal. Là. Quand tu promènes une dette là, de 61 000 $ déjà, là, ça se prend pas à la légère, tout ça. Je pense que ça montre que le DGEQ, le directeur général des élections, il niaise pas. Là. Non, le DGEQ, il regarde chaque petit détail. Il n'y a pas de place à l'erreur. Jamais avec le DGEQ, il va appliquer les règles à la lettre. Donc, tout ce qui est retard, oubli, manque de précision, etc., surtout pour des rapports comme ça, qui sont très importants, ben c'est ça. Ils appliquent les règles, puis c'est ça que ça donne. À travers tout ça, on entend encore là, des nouvelles là, de l'enquête là, sur la promesse là, d'un emploi, Stéphane Lachance et Sam Ahmad là, en campagne électorale, on s'en souvient. Bon, à suivre. Mais bref, ça fait que c'est pas une très bonne journée, là, tout ça, pour rester citoyen aujourd'hui.
Non, c'est justement, et ça fait en sorte que je pense que le DGE est en train de faire une enquête vraiment approfondie sur l'épopée Sam Ahmad, Respect citoyen, et rappelons-le, les deux ont pratiquement plaidé coupables en disant qu'ils s'étaient rencontrés, là. Puis Marc Roussin...
Ils se sont pas mal incriminés, c'est ça, là.
C'est fait ça.
Ça va être de voir, bon, comment ils vont gérer ça, le DGEQ, à qui la faute, une faute partagée, c'est quoi les conséquences de part et d'autre. On sait que, bon, sa maman n'est pas élue, donc est-ce qu'il va avoir des fautes ou des conséquences plus graves pour Stéphane Lachance, qui, lui, a un parti qui existe encore, qui est élu, etc. Ça va être à suivre, mais c'est sûr que d'un point de vue de crédibilité pour Stéphane Lachance, c'est pas bon tout ça, là. Moi, j'ai lu deux articles dans les derniers 24 heures là, qui relatent des propos du chef de Respect citoyen qui ne sont pas tout à fait exacts. Là. Il y a celui sur les passages sur une piste cyclable, il y a celui sur le tunnel du tramway. C'est ça, crédibilité en baisse constante de ce côté-là.
Oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on en a parlé beaucoup des pistes cyclables avec Mathias Turcotte hier, puis on en a reparlé dans Marceau le matin. Là, Respect citoyen tente de contre-attaquer. Mathias est présentement à leur conférence de presse. Il nous a envoyé un document où on présente un sondage du tramway qui, sans surprise, est défavorable au projet. On le sait, de toute façon, ça a toujours été défavorable dans l'opinion publique. Mais pourtant, Respect citoyen nous avait dit « Hey, on va être autre chose qu'un parti politique qui est anti-tramway, mais quand ça va mal, on retombe toujours dans nos vieilles bottines de l'anti-tramway. Je comprends que l'opinion populaire n'est pas pour le tramway, puis ça va le rester jusqu'à la fin des travaux, puis peut-être même quand il va être là. Mais là, à un moment donné, il faut s'attarder à d'autres choses, parce que là, la semaine prochaine, le gouverneur fédéral va annoncer qu'il finance le projet. Le projet va se faire, puis sais-tu quoi? Il est temps qu'un projet se fasse en capitale nationale. Fait que là, on peut-tu parler d'autre chose de la part de l'opposition officielle, s'il vous plaît?
Bien, c'est ça. Puis en plus, c'est quelque chose qu'ils ont répété il y a quelques jours, quelques semaines à peine. Là. Donc, c'est des propos qu'ils ont tenus récemment, ça, de dire vous allez voir, on a de la profondeur, on va aller plus loin, on va s'intéresser à autre chose. Puis même, à un moment donné, Stéphane Lachance était... C'est très proche de dire essentiellement, c'est correct, on le voit que le tramway va se faire, on va arrêter d'être des parcs.
Oui, 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 on le sentait.
On va commencer à être rigoureux sur d'autres dossiers. Puis là, on dirait qu'ils retombent dans leurs pantoufles, ils retombent dans leurs affaires.
Comment on explique ça, Alicia? Est-ce que c'est parce qu'on n'a rien d'autre à prendre en ce moment? C'est-tu parce qu'on sent que le pouls de la population est encore négatif face au projet? Écoute, là, notre ami Mathias Turcotte est à l'Hôtel de Ville. On vient de lui présenter un genre de sondage. Puis dans ce sondage-là, il est écrit: êtes-vous d'accord que les gouvernements municipal et provincial aient de l'avant avec le projet de tramway si son coût est de 7,6 milliards? 66 % sont fortement ou plutôt en désaccord, 30 % fortement ou plutôt d'accord. Est-ce que c'est pour prendre cette vague-là pendant qu'elle est quand même grande?
Parce qu'ils ont quelque chose sous la dent, là. Peut-être que c'est ça. On a déjà parlé en ondes ici de dire, bon, ils ont 1 000 000 $ par année, sur quoi ils devraient dépenser cet argent-là? Puis j'avais dit, bien, des études, des sondages, toutes sortes d'affaires comme ça, des documents, quelque chose de sérieux, ça peut les aider, là, clairement. Ils ont mis de l'argent là-dessus, ils ont leur sondage. Par contre, ça traite encore une fois, du tramway. Donc, tu n'amènes pas un nouvel élément dans le débat, tu n'amènes pas un nouveau sujet. On dirait que tout le monde est un peu tanné là, déjà d'entendre ça. Puis c'est sûr qu'on peut se questionner aussi. Là. On peut avoir des longs débats sur cette question-là quand on pose la question à des gens. Voulez-vous dépenser de l'argent pour le projet? Le taux d'approbation, il descend systématiquement. C'est normal. Il n'y a personne qui veut. Tout le monde veut des belles affaires, mais personne ne veut dépenser l'argent pour ces belles affaires-là. Fait que pour moi, ce n'est pas surprenant le résultat de ce sondage-là. Puis comme je le disais, ça arrive à un moment où là, ils ont dit sur la place publique qu'il n'y avait personne qui voulait construire le tunnel du tramway. Tout de suite, ils se font dire que non, c'est pas vrai. Quand on lit l'article sur l'étude là, maison un peu qu'ils ont faite avec des citoyens sur les passages sur une piste cyclable, mais on voit qu'à plusieurs reprises, ils disent certaines choses qui finalement ne sont pas vraies. C'est difficile là, de les prendre au sérieux. Puis je pense que s'ils allaient dans une autre direction avec un autre dossier, parlons de l'Hôtel-Dieu, par exemple, à défendre une position, à défendre une autre position, peut-être qu'ils seraient capables de retrouver cette crédibilité-là puis démontrer qu'ils ne sont pas le parti d'une seule opposition, finalement, à un projet.
C'est tellement bon ce que tu amènes avec l'Hôtel-Dieu parce que ça faisait justement partie d'un sujet que je voulais te parler. Hier, sorti d'Étienne Grandmont et de Michel Massé, qui est justement le... c'est drôle, Alicia, tiens.
On voit Claude Villeneuve à l'Assemblée nationale.
On va revenir sur l'Hôtel-Dieu dans deux secondes. Claude Villeneuve est avec Pascal Bérubé devant l'Assemblée nationale. On l'a dit ici sur les ondes de Boulevard 101, on a été les premiers à le dire avec Antonine Iacarini. C'est le nouveau directeur des communications de Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, ça a été ton boss à l'Hôtel de Ville. T'en penses quoi?
Moi, je pense que c'est un très bon gain, très bon ajout pour le PQ. J'en ai long à dire sur le PQ, sur les communications. Je pense qu'il y avait vraiment besoin de quelqu'un comme Claude Villeneuve à ce moment-ci, alors qu'il est encore le temps là, de venir rétablir tout ça, puis de venir poursuivre le momentum pour l'automne. Claude Villeneuve, qui est quelqu'un qui est super, qui est reconnu pour ça, qui est super posé, super réfléchi.
Il y a même la misère aux joutes, là, un peu plus démagogue de la politique des fois, puis il a essayé pendant la dernière campagne municipale, mais on le sentait pas à l'aise, puis c'était pas naturel.
Exact, puis peut-être que c'est une bonne chose à ce moment-ci avec cette personne-là à la tête du Parti québécois, donc Paul Saint-Pierre Plamondon puis Claude Villeneuve, peut-être qu'ils vont être super complémentaires, puis il y a de quoi de super beau
qui
va se passer.
Qu'est-ce que tu veux dire, Alicia? Tu trouves que peut-être PSPP est un peu plus sanguin que Claude Villeneuve?
Ah oui, ben oui. Merci de préciser mes pensées, effectivement. Puis au contraire, ben Claude Villeneuve, c'est pas ça du tout. Donc, je pense qu'il y a de quoi d'intéressant là. Moi, je suis super contente pour Claude qui revient à ses amours, finalement. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment la meilleure personne pour ça.
Ah, t'as entièrement raison. Puis quand tu as dit tout à l'heure, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, j'aurais beaucoup de choses à dire sur les communications avec le PQ. Moi aussi, je vais juste dire que dans les 5 partis politiques présentement à l'Assemblée nationale, c'est eux où avoir une réponse, oh my God, que c'est tough. Fait que peut-être que Claude Villeneuve va être capable de remettre un peu de l'ordre. Puis ceci dit, c'est pas pour les critiquer. T'sais, écoute, c'est une équipe qui en a eu plein les bras. Il y était 3 députés, une petite équipe. Ils se sont retrouvés premiers dans les sondages avec tout le monde qui veut parler à ces députés-là. Donc, je comprends aussi qu'ils ont cette réalité-là qui était très difficile. On revient à l'Hôtel-Dieu de Québec. Alicia, chroniqueuse politique municipale, tu disais que ça serait un bon dossier pour respect citoyen. Excellente sortie hier de QS d'Étienne Grandmont qui disait « Hey, one minute, là! » On est en train de déménager tous les services spécialisés de l'Hôtel-Dieu à l'Enfant Jésus. Ça va se faire d'ici 2031. On veut ramener des citoyens dans le Vieux-Québec, mais on leur enlève leurs services. C'est exactement le genre de sortie qu'une opposition officielle devrait faire pour dire « Hey, la ville de Québec, là, le centre-ville, c'est primordial. On peut pas bouger ça n'importe comment. »
Ben oui, puis en plus, c'est un quartier qui n'est pas du tout représenté par respect citoyen, donc ils ont tout avantage là, à aller chercher des appuis de ce côté-là. Avec le conseil des quartiers, le comité citoyen du Vieux-Québec, M. Mass, dont on entend souvent parler, là, qui est très présent, les oppositions, ben en fait, Québec solidaire, une des oppositions à l'Assemblée nationale, ça fait pas mal de monde, puis pour moi, ça représente qu'il y a quand même un consensus là, au sein des citoyens, même s'ils sont très peu dans le Vieux-Québec, il y a un consensus que ça va être... ce sera pas super. La seule personne qui manque autour de cette table-là pour cette annonce-là, finalement, c'est quelqu'un qui représente les commerçants. Parce que pour moi, l'impact va beaucoup se sentir là. Du moment que l'Hôtel-Dieu déménage, bien, c'est plus d'infirmières, plus de visiteurs, plus de travailleurs là, de l'Hôtel-Dieu qui vont manger le midi, qui vont faire leur petite commission ici et là ou qui vont prendre un verre après la job. Ça fait pas mal de monde. Puis ces gens-là sont là à l'année longue. Tu sais, le tourisme, il n'y en a pas de problème dans le Vieux-Québec là, en plein mois de juillet. Mais en plein mois de mars ou de dans, je sais pas, février, là, à l'extérieur du carnaval, c'est plus difficile. D'un autre côté, tu sais, je les comprends, ces décisions-là, dans le sens où je ne sais pas si on peut vraiment considérer un hôpital comme un service de proximité. Je pense qu'on est moins là, là, collectivement. On veut des installations de qualité, on veut des services de qualité, puis souvent, bien, ça vient inévitablement avec une concentration de ces services-là tout au même endroit, avec les meilleurs équipements, meilleures installations possibles, parce que tu ne veux pas te faire barouetter d'un bord de ville à l'autre là, selon le spécialiste ou le service que tu as besoin d'avoir. Fait que le bâtiment, il est vieux. Peut-être qu'il est juste, c'est ça, plus adapté à ça, trop petit... Peut-être qu'on est rendu à une autre étape à réfléchir à sa prochaine vie. Il manque de logement dans le Vieux-Québec, pourquoi pas? Y a-t-il des solutions de ce côté-là? Fait que ce serait une opportunité manquée pour Respect Citoyen là, de venir proposer des solutions, pourquoi pas? Là.
En effet. On termine avec le premier Rififi chez Prospérité Lévis, le parti de Stephen Blainey, maire de Lévis. On s'estime sur le payage du futur troisième lien. On devrait en mettre un ou non? Stephen Blainey dit « Hey, moi, quand je prends l'autoroute à Montréal payante, ça me coûte 3,50 puis je l'économise en gaz. » Mais Alain Quirion, conseiller municipal de Saint-Jean, et Annick Tremblay, la conseillère municipale de Saint-Romuald, eux autres disaient « Hey, one minute, au nombre d'impôts qu'on paye, on n'a pas à se faire imposer un payage. » Déjà un test de leadership pour M. Blainey.
Ben, déjà un test de leadership, puis en même temps, c'est super intéressant ce dossier-là, parce qu'on voit qu'il s'assume dans le sens où il dit très ouvertement, moi, mon équipe, ils ont le droit d'avoir leurs opinions, ils ont le droit d'avoir des idées contre moi, puis je trouve ça quand même rafraîchissant, je trouve ça sain. Je pense que Blainey se dévoile à travers cette prise de position-là comme un maire pragmatique. T'sais, il dit très clairement, j'aime mieux avoir un troisième lien qui est payant que pas de troisième lien du tout. Puis il y a assez d'expérience là, pour le sentir que ce momentum-là, surtout depuis l'élection de Christine Fréchette, pour un troisième lien gratuit sans péage, bien ce momentum-là, il s'estompe. Là. En même temps, en coulisses, on l'entend hein, depuis quelques mois que la cohésion ou depuis l'élection là, de l'équipe de Blainey au pouvoir à Lévis, c'est pas parfait. Ils apprennent encore à se connaître, c'est pas rodé à 100%, c'est énormément, presque tous là, des nouveaux élus. Stephen Blainey qui est à son premier mandat comme maire. Donc, ça fait pas mal de choses, mais comme je dis, peut-être que c'est une bonne idée, peut-être que c'est une bonne façon de faire. Tu sais, le maire, il a une vision 360 degrés de sa ville. Il fait l'arbitrage pour différents projets. Les conseillers, eux, il faut qu'ils se gardent une marge de manœuvre pour répondre directement aux citoyens, pour représenter des intérêts qui sont un petit peu plus homogènes que l'entièreté de la ville de Lévis. Fait que ça se peut que ce soit plus difficile pour eux d'avoir une position plus pragmatique là, comme celle de Blainey.
Ah, c'est vrai, on va regarder ça, voir, parce qu'on a deux styles de leadership complètement différents avec Bruno Marchand sur la Rive-Nord et Stephen Blainey sur la Rive-Sud. On va regarder ça dans les prochains mois, voir quel style de leadership se démarque le plus. C'est un bon point que t'amènes, Alicia Despins. Toujours un plaisir de te parler, Alicia. T'es notre chroniqueuse en politique municipale. On vient de faire une semaine d'actualité en un jour, puis dans une chronique d'à peu près 12 minutes. Mais s'il y a d'autres choses qui se passent cette semaine, on se reparle.
Bonne journée.
Salut, bonne journée. Alicia Despins, excellente chroniqueuse en politique municipale pour nous, ex-conseillère municipale de Vanier-du-Berger.
Je me suis pris quelques minutes pendant que vous discutiez pour me pencher sur le sondage Palace Data qui est sorti.
Oui.
Donc, l'échantillon aléatoire, c'est environ 1017 personnes âgées de 18 ans et plus qui vivent à Québec, qui ont été questionnées par téléphone sur des grandes questions importantes en ce moment. L'affaire, c'est que Respect Citoyen, et je partage l'opinion de notre collègue Maxime, le sort aujourd'hui dans une des grosses journées d'actualité qu'on aurait pu peut-être, en tout cas, pouvoir le mettre. Mais marge d'erreur de plus ou moins 3 % confiance à 95 %, ce qui est énorme.
Oui.
C'est les stats que j'ai devant moi, Jeff.
Vas-y.
À la question, êtes-vous d'accord que le gouvernement municipal et provincial aille de l'avant avec le projet de tramway si son coût de réalisation est à 7,6 milliards de dollars? On est à 56 % fortement en désaccord, 10 % plutôt en désaccord, 12 % plutôt d'accord, 18 % fortement d'accord, puis 4 % au support. Si ça augmente, si on est rendu à 10 milliards de dollars pour le projet de tramway, Là, ça monte, le taux de désaccord, on est rendu à 61%.
Okay.
Puis si on dépasse les 12 milliards, le taux de désaccord est à 68%.
C'est énorme.
Ça ne fait qu'augmenter, milliard après milliard. La seule catégorie qui reste plutôt en désaccord puis qui ne bouge pas vraiment, c'est quand on parle justement là, des gens qui sont pas fortement, mais plutôt en désaccord.
Ouais, les autres
sont, sont restés dans la même catégorie, mais sinon, c'est vraiment les catégories du bas qui se disent plutôt d'accord, qui switchent dans fortement désaccord plus ça monte.
Selon le coup, en effet. Donc, ça va vraiment, mais vraiment être un défi pour la Caisse de dépôt et de placement section infrastructure de garder ça à un coût qui, entre guillemets, raisonnable, là, parce qu'on s'entend 7,6 milliards. C'est déjà un coût énormément élevé. Au retour de la pause, on parle avec Rémi Villemur, chroniqueur avec nous. On va parler entre autres de QS qui propose d'offrir la citoyenneté québécoise aux résidents permanents si le Québec devient indépendant. Coudonc, on va s'ouvrir les valves à la Justin Trudeau du côté de QS. C'est ce qu'on parle avec Rémi Villemur au retour de la pause.
Et chaque semaine. Aussi, pour savoir comment le droit s'applique à votre situation, ça vous prend un avocat.
OK, je comprends mieux. Merci, Sarah.
Ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Mastavocat. Là, quand ça compte. Le caucus. Du lundi au jeudi midi, ne manquez pas les explications simples de dossiers parfois complexes. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. Du lundi au jeudi midi, dans On en jase.
Boulevard 102.1.
Cette semaine chez Métro, préparez-vous à faire des économies dans le tapis, comme la douzaine de gros œufs blancs sélection offerts à 2,88 et les poitrines de poulet assaisonnées et désossées à 4,88 la livre ou 10,76 le kilo. Aussi, les gros raisins rouges sans pépins sont offerts à 1,99 la livre ou 4,39 le kilo. Pour des économies dans le tapis et pour profiter de 7200 produits en promotion, rendez-vous chez Métro. Des conditions s'appliquent. Détails en magasin ou sur metro.ca.
Salut, c'est Gravel. Chaque jour à Boulevard 102.1, on travaille bien, bien fort pour vous offrir une radio qui vous ressemble. Une radio proche de ce qui se passe ici, à Québec. Puis cette radio-là, on la construit avec vous autres pour parler de ce qui vous touche, de ce qui vous intéresse et de ce qui se passe ici, chez nous. Alors aujourd'hui, on veut vous entendre. Prenez quelques minutes pour répondre à notre sondage sur vos habitudes d'écoute sur blvd.fm. Quelles émissions vous écoutez? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez moins? Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? Dites-nous franchement ce que vous pensez de Boulevard. Vous pourriez gagner 250 $ chez Chaloux. Rendez-vous sur blvd.fm pour remplir le sondage. 5 petites minutes qui vont vous aider à bâtir votre boulevard de demain.
Énergir, c'est beaucoup plus qu'un réseau de tuyaux souterrains. C'est aussi un solide réseau d'humains. Plus de 210 000 clients, de nombreux partenaires et plus de 1 700 employés. Des spécialistes d'énergie et de décarbonation, des ingénieurs, des analystes, des spécialistes en innovation, des techniciens et techniciennes. Vous avez compris. Chez Énergir, on fait aller notre réseau pour avancer ensemble dans la transition énergétique. Et on est loin de s'arrêter. Énergir, pensez l'énergie autrement.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Moreau PRS cherche à combler plusieurs postes pour ses succursales de Québec et Lévis. On recrute des représentants en vente, des installateurs et du personnel d'entrepôt. Envie de joindre une équipe solide et le vent dans les voiles? Postulez dès maintenant chez Moreau PRS. Visitez moreaupRS.com. Découvrez le Grand Crousty chez Benet et compagnie. Un nouveau burger généreux garni d'une galette de poulet frit, de rondelles d'oignon, de bacon, de laitue, de fromage en grains, de cornichons et d'une sauce ranch épicée. Avez-vous la mâchoire qu'il faut? Disponible chez Benet et compagnie.
Boulevard.
Québec.
102.1.
Ville de radio. À l'écoute des citoyens. Notre programmation 100% parlée en semaine est là pour vous. 6h, Marceau le matin, avec Gab Marceau, Max Larouche et Jeff Fortin. 7h55, le Pit Stop avec Denis Gravel. 10h, le Point de Max, maintenant en duo avec Catherine Bachand. Le midi, on jase avec Jeff Fortin, Pascal CV et le caucus avec Antonin Iaccarini. 14h, Gravel dans le retour avec On en jase, à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, On en jase.
Merci de demeurer actif au 418-971-1021 lorsque j'ai parlé justement de notre entrevue qu'on aura vendredi avec Rose Guérin, Cette jeune femme d'une vingtaine d'années qui, à 13 ans, a amorcé un processus de transition de genre. Donc, elle était devenue Maxime. Elle est redevenue Rose à 17 ans. On va parler avec elle, justement, vendredi, de sa détransition qui n'est pas payée par la RAMQ. Eh bien, on a reçu énormément de textos. Entre autres, un auditeur qui nous écrit « Ouais, il y a beaucoup de personnes qui regrettent, finalement, leur transformation de genre. Et je pense même que c'est plus que ce que j'avais imaginé. » Il y a un pourcentage également qui n'ose pas dire qu'il regrette sûrement par honte. Donc, très bon point. Continuez à nous écrire au 418-971-1021. Pascal, avant qu'on passe avec Rémi Villemur, rappelez que c'est le discours inaugural cet après-midi. Puis là, finalement, devant l'Assemblée nationale, ça semble être les policiers de Québec, je crois, qui sont sans convention depuis 3 ans, qui sont venus manifester.
Moi, les informations que j'ai eues, c'était vraiment... pour une manifestation anti-gouvernement.
Okay. Est-ce que d'autres se sont... pancartes, ouais. 3 ans sans...
Ben peut-être que sans... ça s'est aussi mélangé. Entendre. Puis je me suis même demandé si c'était pas les travailleurs du communautaire qui récemment étaient là puis se disaient « Hey, ils retournent à l'Assemblée nationale, on va se faire entendre. » Ben c'est sûr que c'est ça la nouvelle. C'est le discours inaugural à l'Assemblée nationale. Tout le monde retourne entre les murs. Donc, c'est une bonne façon de se faire voir, de manifester aujourd'hui. 14h, on attend Christine Fréchette au micro.
Rémi Villemur est avec nous, animateur au 99.5 Montréal, du lundi au jeudi de 18h à 19h, et également les samedis de 8h à 10h avec la collègue Jacinthe Varel. Rémi, comment vas-tu?
Toujours bien, toujours bien.
Cool, nous autres aussi. Rémi, est-ce que QS joue dans la trempe de Justin Trudeau en affirmant que si le Québec est indépendant, mais qu'est-ce que tous les résidents permanents vont avoir leur citoyenneté québécoise?
Ben, moi, je trouve que c'est une très bonne proposition. Je comprends même pas comment c'est possible qu'on n'y ait pas pensé en 95. Je pense qu'on y a pensé, mais qu'on avait décidé de ne pas aller là. C'est une très bonne option. Moi, je le salue quand des partis qui n'ont pas beaucoup d'atomes crochus avec moi proposent tout de même des bonnes idées. Par contre, j'ai une petite réserve que voici. Quand on veut faire un pays, quand on veut briser un autre pays en deux, quand on veut menacer la souveraineté territoriale d'un pays comme le Canada, on ne fait pas juste dans les politiques publiques et dans de la politicaillerie. On est en guerre d'une certaine façon aussi. Mm-hmm. Et là, je trouve qu'on montre nos cartes un peu trop d'avance. Parce que mettez-vous à la place du fédéral en ce moment. Là, vous avez Québec solidaire qui ne prendra jamais le pouvoir. Mais quand même, Québec solidaire qui risque d'être dans l'autobus du oui et qui propose cette idée-là. Pensez-vous vraiment qu'il n'y a personne à Ottawa qui va se dire comment on réagit à ça? Parce qu'on parle quand même de centaines de milliers de personnes qui pourraient effectivement décider de voter oui plutôt que de voter non. Hein? Ou alors, parce que là, des résidents permanents, juste pour comprendre, ça n'a pas forcément le droit de vote, mais ça peut parler, par exemple, à des gens qui sont citoyens puis qui, eux, peuvent changer leur vote et être influencés comme ça. Donc, il faut être précis. Mais si vous donnez votre carte comme ça d'avance, vous donnez la possibilité au fédéral de réfléchir à une stratégie alternative. Et qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ben, de promettre exactement la même chose.
Exactement.
C'est-à-dire, si ça ne passe pas, OK, on va vous donner la citoyenneté à ceux qui sont en attente de l'avoir. Donc, j'aurais vraiment préféré, de la part des souverainistes, qu'ils gardent cette carte-là. Ça, tu gardes ça à 3 jours du vote. Hein? Il y a un référendum... je dis pas n'importe quoi, le 1er mai, ben, tu sors ça le 27-28 avril. Tu dis, regardez, là, on s'est assis, puis on a bien vu que ça marchait pas, que dans certains quartiers multiethniques, ça levait pas. Donc, tu promets ça. Hein? Tu gardes ça pour la fin. Tes cartes d'avance. C'est une habitude chez les souverainistes que de faire ça.
Je suis d'accord avec toi, parce que même ça pourrait amener à ce qu'on a vu en 1995, c'est-à-dire que là, le Canada décide de donner la citoyenneté à énormément de résidents permanents, puis ça va faire en sorte que le vote du non... va se gonfler. Donc, en effet, est-ce que c'est la preuve que, justement, le camp du oui est complètement disparate présentement entre le PQ et le QS?
Non, je pense pas. Je pense que c'est la preuve qu'il y a, par contre, une dose de naïveté dont on ne parvient pas à se débarrasser. Franchement, on pense qu'il faut tout afficher, qu'il faut tout montrer, qu'on peut rien garder secret, parce qu'on n'a pas l'impression d'être véritablement en guerre. Et quand je dis le mot guerre, il ne faut pas imaginer des soldats, mais il faut imaginer quand même une entreprise politique très, très sérieuse. Et je sais que c'est difficile pour les souverainistes parce que, d'un côté, on leur demande d'être plus clair, d'être précisé quel est leur projet. J'écoutais encore Paul Saint-Pierre Plamondon chez Olivier Primeau dans son podcast. Olivier Primeau le talonne pendant une demi-heure, Paul Saint-Pierre Plamondon, en lui disant « On peut-tu avoir plus de détails en vue de l'élection? » Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon est là à dire « Je peux pas vous dire non, je dois garder certaines affaires secrètes puis je dois aussi les annoncer au fur et à mesure. » Donc, on a d'un côté... des gens qui disent « on veut en savoir plus » et je les comprends, Puis on a aussi la nécessité pour les souverainistes de ne pas tout révéler. Parce que plus vous révélez votre stratégie, plus vous donnez la possibilité au camp adverse de se préparer. Parce que je précise quand même une chose, les souverainistes vont amorcer la campagne référendaire le jour où elle va s'amorcer. Mais le camp fédéral est en campagne référendaire à l'année longue depuis des décennies. Il y a des fonctionnaires qui réfléchissent à cette question-là, ne serait-ce qu'à temps partiel. Il y a des gens dont le travail, c'est de protéger l'intégrité territoriale du pays. Donc, ces gens-là ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour se préparer. Il faut surtout le savoir quand on est souverainiste.
Rémi, tu réponds quoi à la question qu'on vient de recevoir par texto et continuer de réagir au 418-971-1021? Si le Canada ferait un truc du genre, on appellerait ça de la tricherie. Mais là, oh non, ça n'est pas. Est-ce qu'on est vraiment deux poids, deux mesures?
Ben, en même temps, on a appelé ça de la tricherie, mais personne n'a considéré véritablement que c'en était. Parce que si ça avait été de la tricherie, les tribunaux auraient tranché, puis on y aurait eu des conséquences pour le camp fédéral. Donc, j'ose pas croire qu'on a véritablement appelé ça de la tricherie. On l'a peut-être pensé dans des cuisines puis entre deux bières à taverne, mais il n'y a personne à l'Assemblée nationale qui a mené cette idée-là selon laquelle c'était de la tricherie et surtout ça a été mené nulle part. Non, c'est pas de la tricherie. On appelle ça jouer une joute politique et c'est un enjeu qui bénéficie d'une couche de profondeur symbolique plus importante. C'est-à-dire, c'est pas décider combien d'argent on met dans l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'enlève rien à ce projet-là. Mm-hmm. Mais ça, c'est un projet d'actuariat politique. On gère des fonds publics. Faire un pays, c'est autre chose. Donc, ça engage un autre niveau de profondeur sur le plan stratégique. Ça engage un autre niveau d'implication. Et il faut réfléchir à cette chose-là. Il faut se le demander. Moi, je salue honnêtement l'idée que Québec solidaire a eue. Voyez-vous, quand ils font ça, ils font exactement ce qu'ils doivent faire. C'est un parti souverainiste de gauche qui le dit depuis des années. Nous, on a la responsabilité de nous adresser aux immigrants. On estime que le Parti québécois, avec son discours plus conservateur et identitaire, n'y parviendra pas. Donc, autant je ne suis souvent pas en mesure de dire « voici une bonne idée » puis je ne me range pas derrière le projet de Québec solidaire, que là, je trouve qu'ils font exactement ce qu'ils doivent faire.
Rémi, tu voulais également nous parler d'argent et notre rapport citoyen par rapport à l'argent public et entre autres, tu nous mets des implications du gouvernement versus justement des considérations qui sont hors de notre contrôle. Par exemple, un investissement de 26 milliards pour la guerre en Ukraine et également tout ce qu'on investit en soins de santé temporaires pour les réfugiés. À quoi tu voulais nous allumer?
Ouais. Ben, en fait, l'argent qu'on envoie en Ukraine, c'est loin d'être hors de notre contrôle. Hein. C'est nous qui décidons ce qu'on fait. En fait, c'est peut-être hors du contrôle des citoyens qui n'ont pas vu dans la plateforme du Parti libéral à la dernière élection qu'on allait donner 270 millions de dollars de plus à l'Ukraine. Ça élève le tout à 26 milliards.
Ouais.
Donc, ce dont je veux vous parler, c'est, avez-vous remarqué, quand on voit passer des sommes comme ça, on dirait que c'est comme si on nous annonçait qu'il allait y avoir des travaux sur le pont de Québec ou s'il allait y avoir une voie de fermée sur le boulevard Saint-Joseph.
C'est clair. On s'est créé une habitude d'annonce de milliards de dollars comme on s'est créé une habitude que le gaz est maintenant rendu à 2$ le litre.
Exactement. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire 26 milliards de dollars. Ah, OK, ben ça doit vouloir dire... Ça doit être la bonne affaire à faire, j'imagine. 270 millions de dollars. Ah, ben ça doit être ça. Et hier, j'ai reçu... Mais c'est un autre sujet, mais c'est le même sujet.
Vas-y donc.
J'ai reçu un avocat en immigration à mon émission parce que le gouvernement fédéral a annoncé qu'à compter du 1er mai, c'était vendredi dernier, les demandeurs d'asile et les réfugiés pourront pas voir tous leurs services de santé être remboursés à 100% par le gouvernement. Donc maintenant, on a par exemple 10 séances de psychothérapie qui sont remboursées à 100% et à compter de la 11e, il faut payer, si on est demandeur d'asile ou réfugié, 30% de la somme. Puis bon, il y a d'autres soins également qui rentrent dans cette mesure-là.
Ben, je t'interromps deux secondes, mais c'est copier un régime d'assurance collective. Là. Je veux dire, si tu veux des soins d'un psychologue, souvent dans les assurances, ben, tu vas payer, mettons, 80-70% les 10 premières séances. Je veux dire, tu vas payer juste 30% les 10 premières séances, puis après ça, ça s'inverse pour le reste des séances.
Oui, puis je veux dire, je vais juste préciser une chose. Quand vous êtes, quand vous souscrivez à une assurance collective, vous payez une prime d'assurance.
Ben c'est ça, exactement.
Ce que le réfugié fait pour. Les demandeurs d'asile et les réfugiés qui n'ont pas de permis de travail, donc ils ne payent pas d'impôts, ils payent peut-être juste de la taxe quand ils s'achètent un paquet de gomme au dépanneur. Là où je veux en venir, c'est que j'ai reçu cet avocat-là qui s'oppose à cette réduction des services-là. Et moi, je suis correct. Hein? Je peux admettre qu'il y a un débat, qu'on puisse être pour, contre. Je peux même... devoir le dire, c'est quasiment moral parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on devrait aider tout le temps, tout le monde, peu importe si on a les moyens. Mais j'ai demandé à cet avocat-là, qui était très sympathique, hein, Est-ce que vous savez combien ça nous coûte par année? Et il m'a dit, je ne sais pas. Puis j'ai dit, OK, est-ce que vous savez combien de gens on aide avec ça? Et il m'a dit, je ne sais pas. Et là, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui sont contre la mesure du gouvernement sans savoir combien ça nous coûte. Mais c'est parce que ça nous coûte, par exemple, au Québec, ça nous a coûté 750 millions l'année passée. Mais pour certaines personnes, ben, c'est pas grave. Ça pourrait coûter ouais. 8 milliards, que ça ne ferait pas une différence. Je pense que dans un débat comme ça, la moindre des choses, c'est de savoir combien ça nous coûte, combien de gens bénéficient de ça, si on peut se le permettre. Sinon, on n'est plus en train d'avoir une discussion sérieuse, là. On est en train d'avoir une discussion qui s'axe autour du bien et du mal, le bon, le mauvais, les méchants, les gentils. Mais c'est pas de la politique, ça.
Non, je suis d'accord avec toi. Puis vois-tu, moi, je vais te faire une confidence. Le 26 milliards pour l'Ukraine, même si c'est 26 milliards de dollars, il me dérange pas parce qu'on se bat pour que la démocratie demeure et non pas qu'un régime comme la Russie s'empare d'un territoire. Fait que je me dis, ben coudonc, on mettra ça ses intérêts de la dette, mais on va se battre pour notre démocratie. Mais tu sais, je prends le choix, je prends cette position-là en étant conscience de l'argent énorme qu'on investit. Mais pour moi, la mission démocratique prend le dessus sur le 26 milliards.
Mais c'est correct et je respecte ton point de vue. Par contre, quand j'entends Mark Carney dire hier en Arménie que cet argent-là va servir d'une bonne façon puisque l'Ukraine avance et la Russie recule, je regrette, mais c'est faux. Mm-hmm. Donc, demander à n'importe quel expert de ce conflit-là, l'Ukraine ne remportera pas ce conflit-là non. aussi longtemps qu'il n'y aura pas des soldats européens qui viendront prêter main forte aux soldats ukrainiens. Donc, moi, c'est correct, Jeff, hein, tu as le droit de penser ça. Sauf qu'on te ment, par contre, quand on te dit que l'argent va finir par payer puis l'Ukraine va finir par gagner. Donc, moi, je refuse de me faire mentir en pleine face, surtout si ce mensonge-là me coûte 270 millions de dollars puis qu'on me dit en plus que ben, le coût de la vie augmente, que l'inflation augmente, que les familles n'en ont pas plus dans leur poche, que les jeunes n'auront pas de maison. Ah, je sais pas. Je sais pas si on peut se permettre ça, sincèrement.
Non, mais je suis très d'accord. C'est un beau positionnement également que tu as de ton côté. Puis c'est ce qui est le fun, c'est qu'on est capable de jaser de positionnements différents en se respectant et en se comprenant l'un et l'autre. Rémi Villemur, toujours un bonheur. On se reparle jeudi.
Bye bye tout le monde.
Salut. Salut. Rémi Villemur sur nos ondes les mardis et jeudis en chronique aux alentours de 13h10. 13h15, ça amène toujours des sujets très intéressants. On fait une courte pause et par la suite, c'est la journaliste du Journal Le Soleil, Victoria Barry, qui va venir s'asseoir avec nous. Elle était venue la semaine dernière nous raconter les deux premiers jours de cette enquête publique du coroner Luc Malouin sur la mort tragique de Maïline Lugaz. Et bien là, elle va venir nous parler des témoignages poignants des deux parents. La mère vendredi ouais. et le père hier. Donc, c'est ce qui suit à l'émission d'En Jazz.
Juste CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 102.1.
Ah, que c'est le fun. On est en train de parler course à pied en dehors des ondes parce que Victoria Barry qui va être avec nous pour nous parler de l'enquête publique de Luc Malouin. Bien, Gadonça a fait son premier demi-marathon fin de semaine. Félicitations. On va prendre une petite minute pour en jaser en ondes, c'est certain. Avant, Pascal, problème de circulation et quelques manchettes.
Oui, sur Félix Leclerc-Est à la hauteur autoroute Robert-Bourassa, c'est dans la desserte, là, la voie de gauche qui est partiellement entravée. Il y a un accident. On est sur place, les services d'urgence. Ça me permet de faire un pont avec une nouvelle qui vient de sortir. Il y a un poids lourd qui a été intercepté avec une trentaine de défectuosités vendredi au poste de contrôle, où ça? À Saint-Augustin-des-Morts, ici à oh. Québec. Là, ça amène un peu de char ben autour oui. de l'os, trop près de nous par rapport au camionneur Inc., encore une fois. Surcharge axiale qui d'abord a attiré l'attention des contrôleurs, puis ça a déclenché une inspection mécanique complète du véhicule. C'est le communiqué qu'on a et qui a été publié qui nous l'apprend. Ça veut dire que la personne qui est responsable du chargement du véhicule n'a pas réparti convenablement le poids sur les essieux et les groupes d'essieux pour respecter les limites réglementaires. Alors, c'est 33 défectuosités, dont 29 mineures, 9 sur le camion, 20 sur la semi-remorque qui ont été vues. Et il a écopé le propriétaire de deux constats d'infraction. Un, 2 436 $ pour ne pas avoir maintenu le véhicule en bon état mécanique. Puis le conducteur a reçu une amende de 151 $ pour pneus dégonflés et un constat de 288 $ pour exploitant la surcharge axiale. Alors, on voit que le travailleur routier a fait son travail.
Vraiment.
Mais c'est quand même un peu inquiétant.
Très inquiétant. Remettez nos contrôleurs routiers sur la route au plus sacré.
Discours inaugural à l'Assemblée nationale. On est là-dedans. On commence à arriver. Alors, tous ceux qui prennent partie de notre belle politique provinciale se rendent à l'Assemblée nationale pour 14 heures. C'est là où on entendra Christine Fréchette faire son discours inaugural. Il y a des manifestations devant l'Assemblée nationale. Et on dirait qu'il y a comme un regroupement anti-gouvernement, mais peut-être les policiers aussi. Sans convention, il y a des gens là, qui manifestent, qui veulent se faire voir aujourd'hui. Claude Villeneuve aussi est à l'Assemblée nationale parce que c'est officiellement le nouveau directeur des communications à l'aile parlementaire du Parti québécois. On apprenait ça tantôt avec Anthony Iacarini dans le caucus ici à Boulevard 102.1. Ça est sorti dans les médias par la suite, mais c'est officiel. Jean Boulay, ministre du Travail, va déposer une plainte au SPVM. Ça aussi, j'ai appris ça dans les dernières minutes. Donc, après l'effigie décapitée de Jean Boulay, il y a le syndicat derrière l'action Alliance ouvrière qui affirme, elle, qui n'a jamais confirmé que c'était Jean Boulay là, derrière l'effigie.
Ben non, pas tout, hein, ça y ressemblait pas.
Mais pour lui, il n'a pas voulu prendre cette information-là. Là. On sait qu'il y a une enquête en ce moment de SPVM, mais il y aura une plainte également du ministre.
Bravo, bravo qu'il dépose une plainte. Puis en passant, si vous allez voir sur la page d'accueil de l'Alliance ouvrière, on se décrit comme une machine de guerre. Ça veut tout dire.
C'est assez intense. L'ancienne juge de la Cour suprême du Canada, Louise Arbour, c'est elle qui devient la prochaine gouverneure générale du Canada. On a appris ça aujourd'hui. Elle succède à Mary Simon. Et je fais un petit clin d'œil à un sondage qui est sorti, en fait. Mathias Turcotte, notre collègue, était du côté de l'Hôtel de Ville, puis nous l'a envoyé, là. Sondage Palace Data. Environ 1017 personnes qui ont répondu, des gens âgés de plus de 18 ans qui vivent à Québec sur le tramway. Et entre autres, c'est beaucoup de désaccords face au projet de tramway. S'il demeure à 7,6 millions milliards de dollars, c'est 56 % des gens qui se disent fortement en désaccord. Ensuite, ben, ça se décline plutôt en désaccord, plutôt d'accord et tout ça. Et si ça monte en haut de 10 milliards, on est rendu à 61 % fortement en désaccord. Et si ça monte en haut de 12 milliards, 68 % sont en désaccord.
Alors, sans surprise, les gens sont en désaccord du projet de tramway. Ceci dit, le financement devrait être confirmé la semaine prochaine par le gouvernement fédéral. On a en studio avec nous Victoria Barry, journaliste pour le journal de Soleil, qui était sur le beat de l'enquête publique du coroner Luc Malouin. Mais avant d'en parler, Victoria, comment a été ton demi-marathon?
Oh mon Dieu, ça a tellement bien été. J'ai, comme je te disais un peu avant d'entrer en autre, j'ai eu une crampe pendant à peu près 5 à 6 kilomètres.
Ouais.
Ça m'a ralenti. C'est sûr, mais mon seul objectif était de courir tout le long puis de jamais marcher.
Une
et c'est
constance.
Ça que j'ai fait. C'est
bravo.
Ça.
Bravo. Félicitations.
Quel beau défi.
Très, très contente. Là, très fière de moi.
Et là, j'imagine qu'on a pris... on y a pris goût. Tu t'es inscrit à une autre demi-marathon, je pense?
Ben c'est ça. Quand on a la piqûre, on a la piqûre.
Oui, mais tu t'es inscrite avant de le faire, sur le de Lévis?
Oui. Oh. Puis là, mes proches étaient comme, je trouve que t'es ambitieuse. Tu pourrais commencer par un. J'ai dit, ouais, mais je sais que j'aime déjà ça, courir longtemps. Fait que,
vous êtes beau à voir.
Ah non, mais l'ambiance d'un début de course, courir longtemps, on se vide la tête. On est dans notre.
Je m'essaierai un jour. Monde.
Ah oui, ça sera. Le demi-marathon de Lévis, là, tu sais, le long de la piste cyclable.
Il n'y a pas trop de côtes.
Tu as une vue extraordinaire sur Québec. En plus, ça faisait tellement beau. Ah, que c'était plaisant. Bon, revenons à l'actualité. Maëlyn Lugaye, c'est cette jeune fille malheureusement retrouvée morte le 6 novembre 2024 dans un ruisseau, dans un boisé tout près de son école secondaire. C'était une deuxième enquête publique d'un coroner. C'était fait par Luc Malouin. Et là, la mère a témoigné vendredi et le père hier.
Oui, exactement. Puis je vous dirais que depuis le début de l'enquête, c'était la journée la plus lourde en émotions.
Ah oui.
Laquelle? Celle d'hier avec la maman?
Oui, celle d'hier, c'était le père, Samuel Luger, puis la belle-mère qui est Ève Lévesque. C'était vraiment parce qu'on ressentait leur colère. Leur colère était vraiment palpable là, dans leur témoignage. Eux considèrent que le travail de policier... a été bâclé, là, qu'il y a eu plusieurs erreurs. Ils ont été très, très, très critiques. Puis les hauts dirigeants de la police de Lévis ont pu se défendre par après. Mm-hmm. Donc, on a vraiment eu les deux côtés de la médaille.
Puis qu'est-ce qu'on dit du côté des hauts dirigeants de la police de Lévis? Parce que du côté du père, on compare ça justement au mauvais travail de la SQ dans le cas des deux petites carpentiers.
Oui, absolument. Les policiers de Lévis, eux, ont été assez surprenants. Ils ont prononcé des phrases comme « on a été exemplaires ». On a respecté nos guides de pratique à la lettre. Puis c'est ce genre de phrase-là, ça a quand même choqué la famille, là, parce qu'on a parlé de beaucoup, il y a beaucoup de témoins qui ont témoigné de certaines lacunes. Donc, c'est ça. La police de Lévis, en bref, disent n'avoir rien à se reprocher, puis disent qu'ils ont fait leur travail.
Je ne sais pas si tu vas comprendre ma question, mais admettons que la police de Lévis dit ça, OK? Ouais. Est-ce qu'ils se sentent exemplaires parce qu'ils ont suivi le protocole, mais peut-être que le protocole n'est plus adéquat pour ce genre de recherche-là, où il est à peaufiner, où il est à mettre en relation avec d'autres protocoles? Est-ce que tu sens ça?
Peut-être un peu, parce que c'est ça, eux se défendent en disant « on suit le protocole » parce que c'est pas leur responsabilité de développer le protocole.
En fait, il faut qu'ils suivent ce qui est inscrit.
Il faut qu'ils suivent ce qui est inscrit, puis ce protocole-là a été développé par la Sûreté du Québec, notamment après l'affaire Carpentier.
Ouais, ouais.
Donc, c'est ça, eux, c'est peut-être une forme de désengagement en leur sens où eux ont suivi le protocole, mais c'est parce qu'après ça, c'est aussi l'interprétation du protocole, parce qu'eux ont suivi le profil d'une personne suicidaire, mais Maëline correspondait également au profil d'une jeune de moins de 13 ans, puis c'est pas les mêmes recommandations pour ces deux profils-là. Donc là, eux se disent, ben nous, on a choisi le profil qui était le moins grave, qui était le plus grave, je veux dire, donc celui d'une personne suicidaire, mais ça, après ça, c'est ouvert à interprétation. Le coroner a beaucoup questionné ça. Comment on fait pour choisir entre les deux protocoles?
Est-ce que tu crois qu'il va y avoir des recommandations en ce sens-là du coroner? Je pense que oui, parce que dans ses envolées lyriques, il était critique envers le service de police. Je me trompe-tu?
Quand même un peu. C'est sûr que c'est beaucoup par l'entremise de questions. Puis il a compris la justification de la police à plusieurs niveaux, mais ce qu'il comprend pas, là, ce qu'il semble pas comprendre, c'est vraiment pourquoi les recherches ont été arrêtées pendant la nuit. Mais après ça, au lieu de recommencer à 6 h du matin, là, dès les premières lueurs de l'aube, ben, on a appelé les renforts à 9 h 30. Puis les vraies recherches ont commencé vers 10-11 h du matin.
T'as tort, hein?
Pour le coroner, c'était tard. Il s'expliquait pas pourquoi il n'y a pas un plan qui a été fait la veille. T'sais, il disait, je comprends, là, vous avez décidé d'arrêter les recherches pour lui laisser une chance de sortir. Il dit, ça ne veut pas dire que je suis d'accord, mais je comprends le raisonnement. Il dit, je comprends pas pourquoi on n'a pas planifié à 6 h du matin. Là. On est là, on a le maître chien, on a toutes les ressources.
On donne des nouvelles aux familles aussi, des fois, dans ce temps-là, parce que ça, c'était déploré par la mère. T'sais. Moi, j'essayais d'appeler. On m'a donné des nouvelles seulement à 10 h le lendemain.
Oui, c'est ça, la mère qui dit qu'elle, c'est quand elle a dû se présenter elle-même à l'école pour avoir des nouvelles. Elle ne s'est pas fait
c'est
appeler.
Fou, c'est difficile. Là.
Et elle ne savait pas ce qui est arrivé à sa fille. Là.
Non, il y a vraiment un processus de communication là qui, nécessairement, je pense que le coroner va se pencher là-dessus aussi. Le fameux boisé qui a fait partie de cette enquête-là aussi, parce que dans le périmètre, on ne l'a pas tenu en compte, mais pourtant, quand on regarde la fameuse image captée par la caméra de l'école, on voit très bien la jeune fille marcher dans le stationnement, puis à peu près à 15 mètres d'elle, c'est le boisé.
Oui, bien c'est ça. Puis le sergent, le directeur adjoint du SPVL parlé de ça, puis lui s'est justifié en disant dans le périmètre de 300 mètres, il y a un petit boisé qui, lui, a été vérifié. Mm-hmm. La famille qui n'arrêtait pas de dire « allez voir dans le boisé, allez voir dans le boisé », lui se défend en disant « mais quel boisé? Il y en a des dizaines de boisés dans la ville de Lévis ». Puis lui disait, tu sais, là, en ce moment, on a l'information de où Maëline a été retrouvée. Mais nous, lors de l'opération, on l'avait pas, cette information-là. Et il n'a pas arrêté de marteler ça en disant, si on l'avait retrouvée à 900 mètres, est-ce qu'on se serait fait dire, pourquoi vous n'avez pas vérifié 800, pourquoi vous n'avez pas vérifié
700 mètres? C'est super difficile parce que c'est différent de suivre un protocole puis d'aller avec l'intuition. T'sais, s'il y a un protocole, c'est parce qu'il faut aussi être capable de justifier. Puis des fois, l'intuition pourrait nous amener « Ah, mais c'est jamais sûr! »
Oui, puis tu sais, même dans les protocoles, je veux dire, dans le protocole d'une enfant de moins de 13 ans, on dit de vérifier les sentiers et les boisés sur un rayon de 1 km. Okay. Mais c'est pas ce protocole-là qui a été choisi, c'est celui du 300 mètres.
En terminant, quand aurons-nous les recommandations, justement, du coroner?
Donc là, il y a 2 semaines pour que les parties impliquées fassent leurs derniers argumentaires par écrit. Ensuite, le coroner veut se déplacer sur les lieux pour lui-même voir de ses yeux là, le boisé tout. Donc, il attend que la température soit clémente. Et après ça, il dit qu'il va prendre une bonne partie de l'été en délibéré pour faire son analyse. Rapport qui devrait venir dans le courant de l'automne prochain.
Parfait. Donc, Victoria Barry, on se tient au courant, évidemment, de ceci. Puis on va souhaiter justement que le rapport donne lieu à des actions concrètes rapides. trop souvent, ces rapports-là sont tablettés. Il va falloir... c'est la vie quand même de jeunes filles là, et d'adolescentes là, qui sont
encore
en
quelque chose qui revient, c'est la collaboration entre les services policiers. Oui. Puis ça, je pense que c'est un nœud important encore une fois.
Non, en effet, tu as entièrement raison. Après la pause, on change un peu les idées avec du hockey. Hein? On parlait du Canadien qui commence demain contre les Sabres et des matchs d'hier dans la Ligue nationale de hockey avec Alex Laramé, notre chroniqueur sportif.
Sif dans Saint-Sauveur. Des propositions audacieuses et uniques qui redéfinissent les frontières des arts vivants. Et en plus, vous choisissez le prix de vos billets. Billets en vente au carrefourtheatre.qc.ca.
Ton boss t'a encore dit « on va s'en reparler ». Tes projets avancent à deux à l'heure puis t'es tanné de rafraîchir ton écran en attendant que ça bouge. Viens nous voir. Ici, ça avance, puis vite. Chez Trudel, on fait pas juste construire, on transforme Québec. On cherche des gens brillants, créatifs, ambitieux, du monde qui ont envie de faire une vraie différence. Si tu veux évoluer dans une équipe innovante et passionnée, t'es à la bonne place. Va voir Trudel.ca et viens bâtir quelque chose de grand avec nous. Trudel, forger l'espace.
Je suis avec Sarah de Mast Avocat. Sarah, parle-moi de la médiation familiale.
La médiation familiale, pour moi, c'est la clé du succès pour une séparation réussie. Elle propose des solutions concrètes qui peuvent être mises en place rapidement. C'est une façon de régler une séparation hors des tribunaux, moins de conflits, moins de coûts et moins de tensions.
OK, ça marche comment?
C'est des rencontres entre ex-conjoints avec un médiateur neutre. En plus, les gens bénéficient de quelques séances gratuites via le gouvernement.
Ah, merci Sarah, je comprends mieux.
Mast Avocat, là quand ça compte.
C'est pas pour rien qu'ABA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABAExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Salut, c'est Marceau. À Boulevard 102.1, notre radio, on veut pas la faire dans une tour d'ivoire. On veut la faire avec vous autres. Pour vous autres. Parce que c'est vous qui l'écoutez. C'est vous qui nous suivez. Et c'est vous qui la faites vivre, cette radio-là, au quotidien. Alors là, on veut savoir ce que vous pensez. Quelle émission vous écoutez? Quel segment vous intéresse le plus? Et aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer? Prenez 5 minutes pour répondre à notre sondage sur blvd.fm. Vous pourriez gagner 250 $ chez Chaloux. Votre avis compte vraiment.
Le midi, on en jase. À Boulevard 102.
Ah, le hockey, le hockey, le hockey! Les séries de la Ligue nationale! On est à la deuxième ronde. Pour le Canadien, ça commence demain à Buffalo. Et pour en parler, qui d'autre que notre chroniqueur sportif, Alex Laramé. Alex, comment vas-tu?
En pleine forme, on se prépare pour la game de demain.
Hé, on l'aurait prêt à soir, cette game-là, hein?
Ben oui, hein, c'est long, hein, deux jours, Colin.
Exactement, après ça, ça va aller aux deux jours, fait qu'on va être correct, on va juste avoir une journée de congé entre chaque match. Alex, le Canadien qui a décidé de rester à Tampa Bay pour voyager vers Buffalo seulement aujourd'hui, parce que les gars ont fait la fiesta dimanche soir. T'en penses quoi? Moi, je trouve que c'est une bonne décision, on les laisse loin des distractions, puis on les laisse focus sur le prochain objectif, la deuxième ronde.
Ouais, puis Martin Saint-Louis est sorti, là, il y avait une journée d'entraînement du côté du Canadien, puis il a expliqué justement qu'il voulait donner une journée de congé là, à ses joueurs lundi, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'entraînement. C'est sûr que lui, il a avoué qu'il a travaillé là, sur la série pour préparer son plan de match, mais les joueurs, eux, avaient une journée libre, puis il dit que c'était important de déconnecter, de reprendre un peu des forces, justement, pour la série contre Buffalo, qui va être une série, encore une fois, de tous les instants, là, ça va être physique, puis ça va jouer par là.
Puis dégriser un peu, là, on se le cachera pas. Là. Ils ont le droit de faire
ben, quand même. On a vu un peu ce qui s'est passé dans le vestiaire là, avec l'ambiance que Martin Saint-Louis a mis. Debèche qui se fait entarter. Là, fait que oui, d'après moi, il y a eu une belle soirée pour les joueurs du Canadien dimanche soir.
Exactement. Canadien Sabre, moi, je dis que ça va être une série complètement différente, à savoir que les Sabres ont une défensive plus agile, moins physique, mais une attaque redoutable. Trois lignes qui sont capables de marquer. Puis je m'attends à ce que les marqueurs du Canadien débloquent un peu. Moi, je pense qu'on sera pas juste jammé dans des 3-2. Là.
Mais Martin Saint-Louis, la question lui a été posée. S'il voyait une série peut-être un petit peu plus offensive là, que ce qu'on a vu contre Tampa Bay où c'était serré, tous les matchs par un but. Il n'a pas voulu trop s'aventurer, mais il a quand même ouvert la porte là, à dire s'ils veulent jouer un jeu plus ouvert, le Canadien est prêt. Puis selon moi aussi, là, je pense qu'il va avoir un meilleur match-up, si on peut dire, pour le trio de Suzuki qui était collé au trio de Cirelli. Cirelli est un des meilleurs attaquants défensifs de la Ligue. Je ne pense pas qu'on a un Cirelli du côté de Buffalo. Fait que ça pourrait aider justement le premier trio à se mettre en marche, notamment Cole Caulfield, seulement un but, un seul but en avantage numérique, aucun 5 contre 5. Là. Ça va prendre des buts de notre joueur qui a quand même marqué beaucoup de buts cette année.
Hier, j'ai appris une statistique. Les Hurricanes de la Caroline sont l'équipe qui ont fait le plus de retours en troisième période pour une victoire depuis le mois de janvier. Et ça a été le cas hier. Victoire de 3-2 en prolongation face aux Flyers. Qui va arrêter les Hurricanes?
Ben, vraiment statistique intéressante. Hein? On pense que les Hurricanes, souvent, c'est un club qui domine de A à Z. En tout cas, c'est ça qu'on a vu dans la première série. C'est super intéressant. Mais oui, hier, revenez de l'arrière, but en prolongation. Le trio, le premier trio, là, c'est ça, le premier trio, Stankoven, Taylor Hall. Honnêtement, ça joue au hockey. Taylor Hall, le but gagnant hier. Là, non, ça, c'est un trio de série, ça.
Rod Brind'Amour est même rendu qu'il laisse Sébastien Aho sur le banc pendant les avantages numériques pour embarquer Blake, Stankoven et Taylor Hall. Donc, j'adore cet entraîneur qui va au feeling. Les Golden Knights de Vegas ont battu les Ducks 3-1 dans un match très serré. Carter Hart est en train de retrouver ses lettres de noblesse.
Ben, ça semble être l'homme de confiance là, de Tortorella depuis qu'il est là. On lui donne le filet, puis pour l'instant, ça tient. Mais moi, je pense que les Ducks sont capables de revenir. C'est sûr que le premier match était du côté de Las Vegas. L'expérience, tout ça, c'est vraiment des avantages là, pour les Golden Knights. Mais les Ducks sont pas battus. Là, d'après moi, ils vont revenir dans cette série-là. Là. Ducks en 7, c'était ma prédiction.
Ouais, moi aussi. Moi aussi, très d'accord avec toi. Et pour terminer, en 15 secondes, c'est le match 2 entre le Wild et l'Avalanche. C'est ce soir à 20h sur les ondes de TV Sport. D'après moi, les deux coachs vont avoir serré à défensive. Je vais dans un 3-2 Colorado.
Ben, c'est ça que je m'en allais dire. Je m'en disais, la seule prédiction que je peux faire, c'est qu'il n'y aura pas 15 buts dans ce match-là encore. Non, d'après moi aussi, je m'attends à un match quand même assez serré. Là, peut-être une victoire 2-1 de Minnesota pour niveler la série.
Excellent, Alex Laramie. On se reparle demain aux alentours de 12h45. On va mettre la table pour ce premier match entre le Canadien et les Sabres de Buffalo.
Yes, à demain. Là.
Salut Alex, merci beaucoup. Alex Laramie que vous entendez tous les jours à l'émission On en jase en chronique sportive sur les séries de la Ligue nationale de hockey. Pascal Zévis, déjà fini notre émission.
Ben, on se retrouve demain.
Passe bien trop vite, 2 heures. On se retrouve demain. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Restez à l'écoute de Boulevard 102.1.